Salut tout le monde, c'est TMDJC, vous êtes sur Gaming Live, on est en direct dans Démage, et ce soir nous allons...
Attendez, oui, on m'avait dit je venais pour Meurs pas sans ton pif.
Ah non, on t'a pas dit.
Tu viens un peu trop tard.
Tu m'as trompé, Ken Bogard.
T'aurais fait plaisir, il y avait un Rufus aussi sale que toi.
Ah bah.
Alors en plus, il a battu une fille.
Voilà. Bonjour Ken. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Bonjour. Alors moi, j'attends que Mister MV il finisse ses saloperies. Du coup, comme j'ai trouvé le sujet du débat intéressant, et comme à chaque fois je niquais Tatsu parce que je meurs en poule, je me suis dit que là, je vais plutôt perdre mon temps ici à essayer de dire des choses intelligentes et à pas y arriver. Avec vous.
Alors quel est le sujet de ce soir? Le sujet de ce soir, c'est mise à jour versus nouvelle version, fanservice ou escroquerie. Et donc, vous avez pu le voir, Ken Bogard est à mes côtés.
Des mots très forts.
Voilà, parce que moi j'ai connu beaucoup de mises à jour dans ma vie finalement, et beaucoup de nouvelles versions aussi dans ma vie. Hein. Je dois bien vous avouer, je pense qu'on en est tous là, si on s'intéressait à certains types de jeux. Pouf, oh là.
Bon, je fais pas l'offense de te présenter sur Gaming Live parce que ça va faire bizarre sinon.
Oui, non, mais allons-y, il y a bien plus prestigieux que
ces missions. Je me permets d'introduire sans jeu de mots ALS.
Bonsoir.
Tu te présentes, tu viens d'où, tu es qui, tu fais quoi?
Oula, c'est long, je suis Capricorne déjà, comme Yamato, 4 jours de différence.
Voilà.
Alex le serveur, donc ALS sur Gamecult, où je teste des tas de jeux. Je suis aussi animateur de podcast sur Radio JV, anciennement Radio sur 1.net, notamment L'Étoilier avec Jay, CAF, Fox, JB. Puis j'ai un site qui s'appelle Radio Kawa, où on fait plein de podcasts sur la culture en général. Et je travaille aussi à la télévision pour la chaîne manga. Enfin voilà, j'ai une vie très occupée. Ça s'appelle le célibat.
Et tu connais donc la différence entre les nouvelles versions et...
Absolument pas.
Je suis très content de t'avoir invité. Juste à ta droite, il y a Yamato. Yamato, c'est pareil. Si tu peux te présenter un petit peu, tu es qui, Valentin?
Eh bien, bonsoir TMDJC. Moi, je m'appelle Valentin Lormeau. Je travaille pour le site internet lesnumériques.com. Je suis journaliste high-tech et jeux vidéo, anciennement de Gamecult et également streamer, commentateur de jeux de vidéo de combat, streamer, tout ça. Enfin, je fais plein de trucs. J'ai fait de la réelle vidéo, tout ça, voilà.
Donc toi, tu fais partie des gens qui filment en live, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Voilà. D'accord.
Je fais partie de l'addiction. On m'avait dit qu'on n'en parlerait pas.
On n'en parle pas, d'ailleurs on n'est pas en train d'en parler. Non. Juste à ta droite, il y a Wellcook. Wellcook, c'est pareil, je ne te présente plus maintenant, parce que je pense que là, c'est bon, les gens ont commencé.
Ouais, non, c'est bon, je suis le sidekick de TMDJC.
Voilà. C'est beau.
C'est tellement triste et pathétique de se présenter comme ça, sans déconner.
Je suis son Robin. Sachant que Robin finira par se passer... Batman, de toute façon, il y a 36 versions de Robin. Donc
oui, c'est déjà arrivé.
Donc, ça a pris quelques années quand même pour devenir Nightwing. Hein.
Ça a pris quelques années.
Mais on va revenir sur notre sujet, ça vous dérange pas? on va essayer de suivre le fil conducteur qui n'existe pas officiellement. Et on va déjà se poser la question de savoir quelle est la limite justement entre ce qui est une nouvelle version et ce qui est une mise à jour. Ce qui n'est pas toujours évident à comprendre. Non seulement pour les gens qui ont l'habitude de jouer à ce type de jeu, et surtout pour le grand public. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une différence de catégorie de joueurs, dans le sens où est-ce que les joueurs qui achètent des jeux comme on parlait de Street 4 tout à l'heure, ou certains FPS, ont bien conscience qu'il s'agit d'une nouvelle version ou d'une mise à jour?
Si je peux commencer?
Oui.
C'est pas forcément tout le temps évident de démarquer. Moi, je pense que ce qui réellement démarque la nouvelle version de la mise à jour, c'est une évolution profonde dans le système même du jeu. Et je pense à vraiment tous les types de jeux, que ce soit FIFA, la plupart des FPS qui connaissent des itérations tous les ans, et qui ne changent pas de genre de jeu, finalement, qui reste le même genre de jeu, avec plus ou moins la même âme, finalement, puisque ça reste les mêmes licences qui sont là, mais qui tout de même apportent systématiquement des changements d'un point de vue du système, même si c'est souvent des améliorations qui sont un peu fines. Ils font pas juste refaire un habillage et aller. On a souvent tendance, même moi, à troller que ce soit Call of Duty ou un peu FIFA. Mais après avoir discuté avec beaucoup de casters et streamers d'eux, on se rend compte finalement c'est beaucoup plus subtil que ça, hein, les changements sur ces jeux-là. Et dans FIFA par exemple, les systèmes de passes changent énormément, les systèmes de gestion des personnages ou du gardien de but changent beaucoup. Et en fait, changent de façon radicalement différente, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer pareil qu'avant, réellement, voilà, si on veut réellement jouer à haut niveau. Et une véritable mise à jour... peut tout simplement corriger quelques bugs, apporter des bonus supplémentaires qui permettent une expérience de jeu plus fun, mais fondamentalement tu vas jouer au même jeu, réellement au même jeu. À partir du moment où on te vend une nouvelle version où tu joues réellement au même jeu, là, il commence à y avoir un tout petit peu de foutage de gueule, ouais.
Bon bah c'était cool, des mages, on se retrouve dans
voilà, dans 15 jours, merci beaucoup. Alors du coup, à quel moment c'est arrivé vraiment ce tournant? Quand est-ce que les éditeurs ont commencé à se dire il y a peut-être de l'argent à se faire là-dessus ou il y a une amélioration à faire?
Moi je pense que c'est avec Street Fighter, enfin moi un des premiers souvenirs de jeu qui a une nouvelle version et qui n'arrête pas d'en faire des nouvelles, c'était Street Fighter. Alors par contre, je suis vraiment un gros néophyte en termes de jeux de combat, donc Street Fighter je ne connais vraiment rien. Mais justement je voulais vous poser la question, est-ce que vous considérez par exemple que le Super Street Fighter Ultra machin là avec le 4, c'est des nouvelles versions ou c'est plutôt des mises à jour?
On va en parler de ça, il y aura un chapitre...
Tu me dis qu'il n'y a pas de conducteur, en fait il y en a un, c'est ça.
Mais oui, c'est discret, mais...
Mais je pense qu'on peut peut-être remonter plus loin, parce que c'est pas évident cette notion.
Non, elle n'est pas évidente cette notion, c'est une vraie question.
Je pense qu'on peut commencer à partir de Street Fighter 2, ouais. Je pense que c'est là que ça a commencé sérieusement, parce que Street Fighter 2, c'était, il me semble, le premier jeu de combat à avoir des mises à jour, enfin des nouvelles versions qui sortaient. Capcom a un historique très fort dans le recyclage.
Ils ont même eu les deux, hein, parce que Street Fighter 2 a eu plusieurs versions.
Oui.
Mais Street Fighter 2 Dash est vraiment considéré par Capcom comme un nouveau jeu. Et pourtant, plein de personnes pourraient s'imaginer que c'est la première mise à jour de Street Fighter 2, ce qui est faux, parce qu'en fait, il y a eu plein de versions, des sous-versions de Street Fighter 2. Les bornes n'étaient pas forcément les mêmes. Et d'un pays à l'autre, on n'avait pas exactement le même jeu, en plus. Oui,
mais ça reste quand même la première mise à jour officielle du jeu. Quelque part, c'est quoi, Champion Edition,
hein, ouais.
C'est Dash, Champion
ouais.
Edition. Ouais.
C'est Dash, mais c'est la première véritable... Pour moi, c'est la première véritable mise à jour d'un jeu qui a jamais existé. Il y a concrètement aucune évolution dans le système de jeu. C'est... Peut-être la vitesse d'animation un poil meilleure.
Non, pas vraiment, en fait.
Il y a des nouveaux persos, des ajustements au niveau des coups, des personnages, un ajustement réellement.
Des corrections de bugs et surtout ouais. Un gros ajout. En fait, c'est l'arrivée du reversal. En fait, ça change le jeu vraiment.
Bah, dans le cadre de l'époque, ça justifierait réellement le terme, on va dire, nouvelle version, même si après c'est un peu de la branlette intellectuelle à partir de ce moment-là. Mais il faut voir que dans le contexte de l'époque, rien que cette notion-là, c'est des notions ultra novatrices qui changent profondément l'idée du jeu. Imaginez, sans reversal, dans Street Fighter 2, un mec au sol a perdu. En gros, grandement, c'est ça.
Oui.
Voilà. Et avec des reversals, un mec au sol a moyen de se défendre. Donc, on sépare quand même deux plans de jeu qui sont assez fondamentaux. Mais Street Fighter 2 est un bon exemple d'itération, mais on rappelle que c'est la naissance, c'est à la fois le bébé, enfin l'embryon de ce qu'est à la fois les jeux de combat, mais aussi à la fois de ce qu'est la sphère compétitive du jeu vidéo en opposition. Et du coup,
ce qui va devenir chez nous l'e-sport, en fait.
Va devenir exactement chez nous l'e-sport. Et évidemment, et ça apparaît comme une évidence aujourd'hui, ça l'était peut-être un peu moins à l'époque, mais finalement ça s'est fait naturellement. Évidemment, ce genre de jeux-là ont besoin de réajustement et ont besoin de mise à jour ou de nouvelles versions. Pas forcément de nouvelles versions, mais surtout de mise à jour pour justement essayer de donner réellement de l'intérêt au jeu pour rester, pour garder un caractère compétitif intéressant. Et c'est surtout dans cette optique-là, améliorer le gameplay et rendre le jeu toujours plus intéressant à être joué en 1 contre 1 que ça a été fait. Et ça a été le cas dans tous les jeux de combat après.
Ben, en fait, Capcom a été vraiment dans un cercle virtueux, dans le sens où il y avait une demande de la part des joueurs qui était réelle. Il y avait le combat qui menait avec SNK, où de l'autre côté, en fait, il y avait une évolution des jeux aussi de leur côté. Donc c'était vraiment un système de ping-pong qui, au départ, marchait bien pour tout le monde.
Si je ne dis pas de bêtises, si on prend le cas de Champion Edition, Dash, le principal argument commercial de Capcom, c'était le fait de pouvoir jouer les boss,
ouais.
Et surtout de pouvoir jouer des personnages en miroir,
ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup de gens, en fait. Alors Street Fighter 2 a été lancé au début, le Versus, ils y croyaient absolument pas, et quand ils ont vu que le Versus, les gens, effectivement, ils aimaient jouer les uns contre les autres, que les gens ont commencé à gueuler en disant ils jouent Ken et moi je veux jouer Ken aussi.
C'est pas tout à fait vrai qu'ils n'y croyaient pas. Disons qu'ils étaient pas sûrs de ce que ça allait donner. Mais enfin, ils avaient quand même sorti des bornes qui étaient l'une contre l'autre. Où ils avaient
oui,
quand
c'est
même.
Vrai, c'est tous les exploitants qui n'y croyaient pas.
Voilà, c'est Capcom avait bon espoir que ça marche quand même.
Et c'est vrai que tout ça part de là, mais quand on voit même la combat qu'ils ont eu contre SNK, SNK avait le même genre d'idée avec peut-être une volonté un peu plus forte de créer des jeux réellement, des véritables suites réellement un peu plus originales peut-être, mais quand on voit par exemple de Fatal Fury 2 à Fatal Fury Special, on a un nouveau jeu, mais sincèrement on sent que c'est enfin, on sent qu'on est très proche de la mise à jour du jeu. Il y a des nouveaux persos et il y a une grosse évolution dans le système de jeu, mais globalement, le jeu reste la même base, le même moteur, etc., etc., etc.
Mais ce qui est compliqué, du coup, dans le cas du jeu de combat, c'est que tu te retrouves, en fait, avec des jeux qui, d'un côté, ont des nouvelles... enfin, sont de nouveaux jeux. L'exemple des jeux qui sont... On parlait de Street tout à l'heure, des jeux qui sont sortis sur console, où t'as sur la Super Nintendo, t'as le Street 2 qui sort, donc la Mega Drive sort le Prime, qui est en fait aussi le turbo dedans, mais qu'importe. Sur la Super NES, il te balance le turbo derrière, donc on a l'impression qu'il y a ce jeu-là. Et à côté de ça, le Street Fighter 3 n'est sorti que des années après. Donc ce qu'ils considéraient, eux, comme un vrai nouveau jeu, est sorti très longtemps derrière. Et pour autant, les jeux ont été vendus comme s'ils étaient des nouveaux jeux à part entière.
Ouais.
Là, c'est vrai que cette limite, elle est très fine. Et on peut comprendre que le joueur lambda se disent, les éditeurs se foutent de notre gueule, on va pas racheter le même jeu à chaque fois.
Bah, le truc, c'est qu'il faut se remettre quand même dans le contexte.
Il faut pas oublier surtout que c'est de l'arcade.
Oui.
L'approche de l'arcade.
Alors, Street Fighter 2, c'était plus tout à fait de l'arcade.
Mais attends,
parce que...
finir, mais l'approche de l'arcade et l'approche du jeu domestique est quand même pas le même. En arcade, c'est une salle, c'est comme une salle de cinéma. Pour attirer ton public, tu as besoin de renouveler ton offre. Et quand tu as un jeu aussi populaire que Street Fighter 2, même s'il est super populaire, au bout d'un moment, il aurait pu s'essouffler. Et relancer l'intérêt de l'exploitation, de la mise en vente du jeu, sans circulation, le public qui revient, qui reste le jeu, qui met de l'argent, ça rentre dans cette logique-là. Et c'est pour ça que ce système de mise à jour, quelque part, il avait quelque chose d'assez naturel en arcade. C'est pour ça aussi que régulièrement, énormément de jeux, en fait, en arcade, ont le droit à des révisions. Les gens ne le savent pas, mais en arcade, si tu as la curiosité de lancer
le même jeu, et pas tout le même jeu selon la carte que tu possèdes.
En beaucoup de différentes révisions, en fonction de plein de critères. Souvent, il y a des évolutions de gameplay, des ajustements, qui passe aussi parfois par des ajustements de hardware. Mais voilà, donc c'est un microcosme qui s'y prêtait énormément bien.
Ça coûtait cher le patch à l'époque d'ailleurs.
Ça coûtait très cher le patch,
mais très cher le patch, mais t'amortissais très rapidement le patch.
C'est le problème d'aujourd'hui en arcade, c'est que ça coûte toujours très cher, particulièrement en France, et que t'amortis pas forcément.
T'amortis plus rien, ouais.
C'est un autre débat.
Ça, c'est un autre débat, mais voilà. Donc il y a un écosystème qui est spécifique et suite arcade, et cette question aussi de nouveaux jeux, nouvelles versions ou pas, elle se pose aussi dans le monde des consoles ou du jeu ordinateur. Ou quand même, déjà, à partir du moment où on a une suite qui reprend dans les grandes lignes les mécanismes du jeu d'avant, au hasard, on peut dire Megaman si on va rester chez Capcom, la différence entre Megaman et Megaman 2, elle ne va pas se situer dans le moteur du jeu ou dans
Super Mario Bros. Hein,
ouais. Super Mario Bros. Aussi, d'ailleurs.
Là, les Megaman, il y a vraiment une évolution de gameplay à chaque Megaman. Tu connais bien la série Megaman.
Entre l'un et le 2, pas vraiment.
Oui, ce que j'allais dire.
Pas vraiment entre l'un et le 2, mais après l'apparition du slide, voilà. La possibilité d'appeler le charge buster, etc. Il y a quand même
une
évolution de gameplay de base.
Même bon. À partir du 4, en fait, du 4 au 6, ça a commencé à stagner.
Ce que j'allais dire, ouais, c'est pas tous les Megaman.
On sent effectivement que dans le 7, qui arrive sur Super Nintendo, là, ils savent plus du tout quoi faire. Et le X arrive, nouveau décor, nouveau cadre. Bon,
beaucoup plus de dynamisme aussi.
Plus de dynamisme, effectivement. Mais fondamentalement, les bases sont les mêmes. Mais là, on a vraiment l'impression de passer un palier quand même. Ouais.
Mais je me trompe pas, mais il me semble que le X est bien sorti avant le 7, non ?
Oui,
tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils ont essayé quand même. En fait, ils ont fait le X, ils ont vu que ça marchait bien, ils se sont dit quand même classique, c'était cool. Et donc le 7 débarque derrière. Mais là, tu sens qu'en fait, ils sont prisonniers de l'ancien, donc de la série classique. Et le 7 n'est pas un mauvais jeu en soi, c'est-à-dire que...
Non, loin de là même.
De toute façon, on peut quand même pas dire que les Megaman sont des mises à jour du Megaman d'avant.
Non.
Ça reste des nouveaux jeux avec un nouvel univers total. Enfin, tu sens réellement que tu joues pas
après,
réellement
si
au même
jeu.
Un nouveau cheminement.
Ça serait, on va dire, on va prendre un Dragon Quest.
Oui.
Dragon Quest, d'un épisode à l'autre, il y a quand même des bases fondamentales qui sont les mêmes. Tu prends le Dragon Quest 1 et 2, le jeu globalement c'est le même, c'est juste qu'on passe de 1 perso à 3 avec des classes.
Et plusieurs ennemis que tu peux affronter
Tu passes du 2 au 3, tu enrichis le système de classes.
Oui.
Mais à partir du 3ème, l'évolution du jeu, elle se situe essentiellement en un bestiaire qui s'élargit, on va dire en une liste de sorts qui va s'élargir aussi, et éventuellement dans une nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Et est-ce que le jeu fondamentalement évolue ? Pas tant que ça, si tu regardes.
Bah, le jeu évolue peut-être pas sur le gameplay fondamental, mais Dragon Quest a évolué et innové énormément de par, on va dire, la trame scénaristique ces derniers. Tu joues à Dragon Quest 4, la première trilogie de Dragon Quest a une trame scénaristique extrêmement classique, où on suit le héros de la lignée de Roto. C'est d'ailleurs très bien rendu dans Dragon Quest 3, qui est un très très bon épisode, justement, parce que
le
gameplay est arrivé à maturité. Et dans Dragon Quest 4, il n'y a pas de héros. Déjà, il n'y a pas de héros dans Dragon Quest 4. Tu joues tous les persos indépendamment, tu joues pas un héros principal.
C'est et ensuite, des élus, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Tous se réunissent et ensuite ça va. Dans Dragon Quest 5, non seulement il y a le système. Déjà, il y avait peut-être un peu ça dans le cadre de capture d'ennemis que tu peux ensuite utiliser à ta guise et même après ça va plus loin avec des systèmes de reproduction d'ennemis. Dans Dragon Quest 5, tu commences le héros. Il a quoi, 4-5 ans, il est avec son père, il termine, c'est un daron, il est marié, tu joues même avec ses enfants, enfin tu le suis au cours de toute une vie, ça c'est un cheminement, peut-être Fire Emblem s'y était risqué avant, à vérifier, mais c'est un cheminement qui était extrêmement innovant. Après je suis assez d'accord, à partir de Dragon Quest 6, je suis en train d'y jouer en ce moment d'ailleurs, donc je peux parler, ils essayent des scénarios qui sont les scénarios un peu de monde parallèle, qui, c'est un peu plus bancal, et c'est vrai que le système de jeu... Ben voilà, par rapport au 5, tu vois pas la différence, même tu as l'impression qu'il est un tout petit peu appauvri.
Bon, là en plus, c'est un petit peu différent parce qu'on parle quand même essentiellement des remakes, parce qu'on y a joué sur les remakes DS essentiellement.
Des remakes Super NES pour Dragon Quest 3 pour moi.
Voilà, non, moi j'avais joué sur Game Color aux 3 premiers.
Ensuite, remake PS2 pour Dragon Quest 5 pour moi aussi.
Mais moi je parle de ceux sur DS, là tu as le problème parce que tu as la vue arrière. Où ils ont quand même retravaillé les jeux pour les aligner sur ce qui est venu après. Ouais. Donc au final, on se trouve avec des jeux qui, de base, présentaient une évolution de l'un à l'autre qu'on a effacé rétrospectivement.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. L'évolution technique n'est plus là. C'est voilà. Ça que tu... oui.
L'évolution
c'est
technique, vrai. Mais même en termes de gameplay, t'as l'impression que des fois, ils ont récupéré.
Dans Dragon Quest 6, on peut se battre avec Emily, Laura et Olivier. Et c'est très sympa. Oui, ils ont traduit les noms en français. Oui.
On demande sur le chat quel était le premier jeu à DLC.
Oh, le premier jeu à DLC, ça c'est super
intéressant. C'est probablement sur la PC, de toute façon, je suis à peu près
déjà,
certain.
C'est sur PC, mais si on parle du jeu console, c'est peut-être la Xbox 1. Parce qu'il me semble pas que sur Dreamcast, il y avait des DLC téléchargeables.
Non,
il me semble
pas. Mais
la Xbox 1 qui met en place.
T'avais le DD64 qui proposait. Non, mais même déjà avec le.
Ouais, alors après, évidemment, ça, tu vois. Sur un Famicom Disk System, tu vois, déjà.
Ouais, non, mais à l'époque, c'est encore autre chose là. Parce que
la vieux Disk System, effectivement, on en parle là.
Parce que c'était pas des DLC dans le sens où tu mettais pas à jour ton jeu.
Bah, ce que LSD, pour F0X,
on est d'accord.
Pour F0X, je suis désolé, pour F0X, c'est du DLC. Hein. Tu le télécharges pas sur le net, donc c'est. C'est du DLC. C'est complètement du DLC. Tu télécharges un nouveau jeu.
On est en quelle année là?
2014, il me semble.
Non, mais pas cette année là. Mais normalement, tu. Du disque
c'est
l'année
dernière.
On est en 97 ou 98.
Mais après, si on revient sur l'univers de l'ordinateur, et je dis pas juste PC parce que bon, c'était quand même un écosystème très riche à une époque, les ordinateurs personnels. Les disques additionnels de contenu, c'est quelque chose qui a toujours existé, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que Blizzard qui fait ça, de sortir un jeu de disque additionnel avec plein de contenu pour son jeu. Mais à cette époque-là, quasiment tous les jeux avaient droit. Tu étais presque certain que 9 mois après, tu avais ton contenu additionnel qui serait mis en vente. Hein.
Ça reste quand même, vachement répandu encore. Enfin, quand tu penses à des jeux comme Civilization, les Sims, SimCity, tous les jeux de gestion, genre de jeux justement très, très étoffés, très touffus. En général, tu as beaucoup de contenu et aussi du contenu fait par les fans avec tout ce qu'apportent les mods, évidemment, maintenant.
Ah, ce qui est encore autre chose, du coup. Là, ouais. Parce que là, c'est des contenus du coup, qui ne sont pas payants ou là, le fan est heureux de pouvoir justement le trouver.
Bah justement, alors du coup, c'est vraiment quoi? C'est vraiment du fanservice pour le coup, hein, ce genre. Enfin, sur PC, c'est les éditeurs qui écoutent plus ou moins les fans de leur jeu. Parce que moi, je sais que je joue un peu à Civilization, les DLC, je les achète quand même parce que je suis quand même demandeur. Que ce soit des nouvelles, des nouveaux modes ou alors des nouvelles possibilités du jeu. Et il y a plein de jeux comme ça. Et après, il y a tout un tas de mises à jour, on en parle moins, qui étaient aussi relativement gratuites, hein, des jeux, justement des corrections de patch. Et je pense que la mise à jour pure et dure, c'est... On peut vraiment parler de ça, corriger des bugs, faire en genre que le jeu soit meilleur et plus vivable et plus agréable à vivre. Et dès qu'on commence à additionner peut-être plus de contenu, à l'enrichir... Il arrive à un moment où on peut pas passer à côté du terme de nouvelle version et on peut pas passer à côté le fait de repayer quand même pour un jeu, même si on est très fan. Après, il y a le débat du prix justement de ces mises à jour. Où est-ce qu'on place la barre du prix de ces mises à jour?
C'est la très bonne question. Alors, je suis
j'ai fait un propole et les gens votent majoritairement pour moins de 10 euros.
Ah! Moins de 10 euros, mais ça veut. Ouais. En fait, ça veut, pour moi, ça veut rien dire. Moins de 10 euros, pourquoi? Voilà, exactement.
Ça dépend du contenu.
Pour un DLC.
Mais, bah, mais quel genre, mais quel genre de DLC?
Un
là,
DLC,
tu vois,
ça veut tout dire et rien.
Bah, voilà, le dernier que... DLC Mario Kart, il propose 16 courses supplémentaires,
6 personnages.
Voilà, 6 ou 8 personnages. Je sais pas, voilà, il est vendu 12 euros. Est-ce que pour vous, ça dépasse donc les 10 euros?
12,50€.
Non, c'est 12 euros.
12 euros.
Des 12,
ah, 12 euros. Est-ce que pour vous, c'est un prix juste ou c'est trop? Ou est-ce que tout simplement, déjà, c'est un DLC payant, c'est déjà trop? Mais il faut savoir que
16 courses, c'est quand même la moitié de. Enfin, le
c'est
jeu propose
22
courses. C'est voilà, c'est ça.
16 courses, c'est double. 16 courses, c'est double dash.
Oui, c'est oui. Donc c'est quand même assez énorme et pour pas cher, quoi. Donc,
pour
c'est...
pas cher. Après, pour, rela- pour relativement pour pas cher. Après, on
pour
se dit pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous sortir ça tout de suite finalement avec le jeu d'origine? Mais le fait est que même si le jeu, je crois, contient des fichiers DLC pour prévoir des éventuels DLC, les DLC ne sont pas dans le jeu. Là où ça commence
ça
à coincer.
Ça dépend des éditeurs. Parce
ouais,
que
non mais je parle de Mario Kart. Je parle de Mario Kart 8. Je parle de Mario Kart 8. Et là où justement où on commence à parler d'arnaque, c'est quand les DLC sont déjà à l'intérieur du jeu à la base.
T'achètes une clé.
Et que tu achètes exactement ton jeu, mais que tu sais personnellement que t'as pas accès à l'intégralité du jeu que tu viens d'acheter.
Alors là, en plus, on rentre dans un domaine qui est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a celui de l'éditeur qui, lui, fait en sorte que l'argent qui est mis sur son jeu va être séparé en plusieurs parties. Donc, il y a l'argent qui va être dédié au jeu en lui-même et ceux qui vont être pour les DLC qui ne sont pas forcément en plus les mêmes équipes. Et donc, là, on est dans deux éléments séparés et qui se disent « Bah oui, mais attendez, moi, j'ai mis tant d'argent là-dessus, j'ai mis tant d'argent là-dessus. » On a tout foutu sur la galette pour éviter les téléchargements trop longs, on va être plutôt pour servir les gens. Il est normal, tout travail mérite un salaire, qu'on fasse payer le DLC. On peut comprendre l'idée. Et à côté de ça, on a effectivement l'acheteur qui, lui, achète son disque, où il y a plein de trucs dessus, dont des choses sur lesquelles il ne peut n'a aucune prise parce que du coup la console lui interdit l'accès, et si jamais il veut l'ensemble du contenu, il est obligé de payer le DLC. Et puis par rapport à ça, on est en plus la particularité d'être en France, et qu'en France, quand tu achètes ton jeu sur le disque, bah tu en fais ce que tu veux. Parce que le disque t'appartient. Et ça, c'est les éditeurs japonais. On a encore du mal à comprendre ça dans notre culture, qui fait que si jamais on a envie de regarder ce qu'il y a dedans
et de farfouiller, t'en as totalement le droit.
On a totalement le droit de le faire. Et donc là, on se retrouve dans un. Il y a un vide quelque part sur ce que ça représente. Et les deux points de vue se défendent. C'est vrai qu'en tant que consommateur, on peut trouver ça un peu gros quand même de se retrouver sur quelque chose sur lequel on n'a pas le... C'est comme après, si on avait un DVD, qu'on pouvait pas voir tout le film en fait.
Juste une petite chose, parce que pour revenir encore sur la raison du malaise, c'est que s'il y a quelque chose qui gêne beaucoup les gens, c'est notamment de notre génération, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on voit les jeux vidéo, qu'on nous fait payer des choses qu'avant on nous offrait dans les jeux, qui étaient des contenus à débloquer, des choses qu'il fallait parfois finir le jeu, le retourner, faire plein de choses.
Même des costumes alternatifs, quels qu'ils soient.
Des costumes
alternatifs.
Des nouvelles voitures. Des nouvelles voitures.
C'était même le propre de certains jeux.
Blazblue, t'as fait payer les couleurs alternatives des personnages. C'est on touchait le fond, là.
Bah, les couleurs alternatives des personnages, tu les as eu dans presque tous les jeux. Tu les as eu dans Street Cross Tekken, tu l'as eu dans...
Tu reprends les jeux SNK de la PlayStation 2, t'avais un éditeur de couleurs, tu faisais toi-même tes couleurs. On a régressé.
Ah oui,
on a régressé, oui, bien sûr, on a régressé.
C'est même pire que ça sur Street Cross Tekken, parce que tu pouvais faire toi-même tes propres couleurs, mais tu devais acheter les couleurs.
C'est ça.
Non, mais c'est encore pire.
Acheter les couleurs pour les mettre
sur ton personnage.
Ça, franchement, c'est... Mais Street Cross Tekken en termes de DLC, on peut pas dire que Capcom a été.
Je pense que c'est le maître étalon de ce qu'il ne faut pas faire en termes de politique de DLC.
Oui, d'ailleurs, ça ternit grandement l'image des DLC de Capcom en disant Capcom ils ont une politique abusive, alors que c'est sincèrement les loin d'être les plus saligots. Si on refait un historique des DLC Capcom, bah déjà il y en a pas eu des masses. Et ensuite, même l'histoire des nouvelles versions de Street Fighter, des nouvelles itérations tous les gens. Déjà, nous, sur console, qui est-ce que ça conservait? En arcade, c'était les gérants de l'arcade qui les achetaient. Mais nous, alors, on a eu Street Fighter 2 sur Super Nintendo, la version Dash sur Mega Drive, il me semble, ou une pseudo-version Dash sur Mega Drive.
Sur la version Dash de la Mega Drive et la version Turbo de la Super NES, en fait, t'avais les deux jeux dessus.
C'est le même jeu, c'est juste qu'ils n'ont pas le même nom.
La plupart des gens ne le savaient pas à l'époque, parce que tel que les gens en parlaient dans la presse, parce qu'ils ne connaissaient pas bien la différence entre les versions, disaient, bah oui, vous pouvez jeter votre ancienne cartouche Super NES, parce que sur la nouvelle, il y a l'ancien Street Fighter 2 et le nouveau Turbo, alors qu'en fait, il n'y a pas le premier dedans. Il y a le Dash et le Turbo, en fait.
C'est ça. Exactement. Et ensuite, bon, évidemment, Super, qui lui est arrivé, il me semble, sur les deux supports.
Sur les deux en supports, c'est là qu'ils ont rejoint.
Ouais. C'était le dernier.
Sur les deux supports, et c'était le dernier à être sorti. Alors évidemment, à cette époque,
l'Alpha 2, mais qui est sorti
longtemps. Mais il s'est séparé quoi, 2 ans entre la sortie de tous les jeux à chaque fois?
Non, un an.
Un an?
Ouais.
Bon, ça faisait quand même très très cher, je sais pas si vous vous rendez compte.
Ça faisait très très court sur Mega Drive, parce que c'était un an entre la version Mega... Non, c'était sur Super NES, et un an entre la version Mega Drive, le 2 Dash et la version Super 2. Et sur la Super NES, la Turbo est arrivée légèrement après. Donc il y a eu moins d'un an en plus. Donc c'est vrai que les journalistes crient au scandale et les joueurs qui n'y connaissaient pas grand-chose. Parce que c'est vrai que hormis les 4 nouveaux persos dans Super Street 2, si tu connais pas le fond du gameplay, ouais, tu peux t'imaginer que c'est le même jeu.
Oui, d'autant plus que...
Ça fonctionne encore aujourd'hui sur Street 4.
Hein, oui, tout à fait. On rappelle que sur console, c'est quand même des adaptations.
Et en plus, c'était des adaptations.
Donc c'était vraiment pas
c'est
le même jeu.
C'est des conversions.
Enfin, c'était vraiment pas le même jeu quand
heureusement qu'on avait Cyril Drevet pour nous faire des guides de jeu avec des combos.
Heureusement, grâce à Cyril Drevet, on avait tous les combos.
C'était Chris Fighter qui
tout la combo à portée de main.
Qui nous a mais bon, sorti voilà. Le livre sacré.
Donc la légende vient de là. Mais reprenons ce qui s'est passé sur Street Fighter 4 par exemple.
À propos de Street Fighter 4, il y a quelqu'un qui dit est-ce que les dernières itérations de Street Fighter 4 n'auraient pas pu être de simples patchs?
Et bah justement, c'est là où je vais en venir.
Mais
je vais répondre. Je vais répondre à cette question. La plupart l'ont été. Entre Street Fighter 4, donc la version Vanilla qui est sortie, qu'on a eu en console déjà EP par rapport à la version arcade sortie.
Oui. Donc il y avait déjà en plus à débloquer.
Exactement. Donc les persos étaient débloquables, etc. Donc on a
le gameplay avait légèrement changé.
Exactement. On n'a pas payé la version arcade et on a payé un DLC des consoles. Non, on a eu une version meilleure que la version arcade. Que l'arcade n'a
plus riche.
Plus riche, oui. Que la version arcade, oui. Ça... que la version arcade n'a jamais eu. Oui. Jamais eu. Ils ont jamais rebackdashé pour faire ça. Ensuite, Super est sorti. Évolution dans le gameplay, double ultra, multiplication quasiment par 2 du cast.
Enfin, pas double ultra, 2 ultra.
Oui, 2 ultra, oui.
Personnage en plus,
ça veut rien dire, enfin un cast absolument hallucinant.
Par 2, c'est sur la version arcade, parce que la version console, vu qu'on avait déjà eu les personnages, beaucoup.
Voilà.
On avait moins l'impression d'avoir beaucoup de nouveautés.
Alors, c'est parce arcade, parce que Super Street 4 est sorti avant sur console, et ensuite il y a une version arcade qui a été vendue dans la version arcade sur console.
C'est
ça. Faut suivre. Hein.
En fait, c'est l'arcade édition qui est sortie en disant voilà, on est désolé, on vous a snobé sur Super et sur la version console. Mmh. On sort une version arcade édition. Elle est inédite à l'arcade pendant 6 mois ou 1 an?
6 mois. Peut-être un peu moins.
Je crois que c'est 6 mois.
Ça dépend parce que sur l'arcade édition, si je dis pas de bêtises, il y a aussi l'histoire qu'ils nous ont refait avec l'Ultra. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord sorti le DLC et plus tard la version physique.
Mais oui, enfin, tout ça pour dire que Super Street Fighter 4 est vraiment une nouvelle version du jeu. Elle apporte quand même un peu plus sur le système de jeu, même si c'est pas grand-chose. Des persos, même d'un point de vue du mode solo, hein, les modes de jeu, le online, tout ça a beaucoup évolué.
On a
même
droit à présentation.
L'habillage du jeu est complètement complètement différent. La présentation, les histoires des personnages, voilà.
On peut plus regarder les endings des personnages. Tout ça, ça a été squeezé. Bon, on pourrait parler des endings de Street 4, mais on n'est pas là pour ça. Mais sur l'ancienne version, sur Street 4, une fois que tu avais terminé le jeu, tu pouvais revenir sur tout ce que tu avais fait, ce qui n'est pas le cas sur Super Street 4.
C'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs en moins, mais on avait vraiment une nouvelle version. La première mise à jour qu'on a réellement eue, c'est Arcade Edition.
Oui.
Arcade Edition était une mise à jour. Elle a été payante.
Oui.
Mais elle n'a été payante que de
15 euros
si on possédait déjà donc la version Super. 15 euros, ce qui n'est pas non plus excessif, sachant que ton jeu, ça fait déjà plus d'un an, un an et demi, la Super, qu'on y avait joué.
Le Super était vendu moins cher qu'un
c'est
jeu
pas,
neuf.
Ouais,
il était
c'est
à 40
pas...
euros.
Et il y avait 4 nouveaux personnages aussi. Hein.
On est quand même très très loin. C'est vrai que je me fais un peu l'avocat de Capcom. Des 20 balles tous les 3 mois pour avoir 3 maps en plus sur le dernier Call of Duty.
Voilà, il a dit le point Call of Duty. Non,
on est quand même très très loin de ça.
Ce qui va être très compliqué sur ce que tu es en train de dire, Ken, c'est que d'un côté, on a effectivement les joueurs qui jouent réellement à Street 4, qui connaissent le jeu, et je parle même pas des compétiteurs, hein, ceux qui ont vraiment une maîtrise du jeu, et là on leur propose effectivement un tout nouveau jeu, parce qu'il y a une révision complète de tout le cast, parce qu'il y a une mise à jour complète, et ça c'est un très gros boulot, il y a 4 nouveaux persos. Donc on se dit effectivement, cette mise à jour propose effectivement quelque chose d'intéressant. Mais ensuite on le voit du côté du grand public. Là, on se dit, bon, ok, je vais payer 15 euros pour 4 nouveaux persos. Ah non, en fait, c'est pas 4 nouveaux persos. C'est 2 nouveaux persos qui sont des doublons de trucs qui existaient déjà. Mais ils se foutent de la gueule du monde, Capcom. Et c'est vrai que là, on a 2 points de vue qui se défendent. tout autant et qui sont pour le coup difficilement conciliables. Parce qu'on a le vrai joueur qui est en attente finalement de quelque chose, qui a envie de se tenir un jour, qui quand il arrivera sur le live veut pouvoir jouer avec les dernières versions des personnages, etc. Et puis le joueur lambda qui d'ailleurs ne l'a pas acheté.
Mais exactement, et c'est pour ça que peu des joueurs lambda ont acheté Arcade Edition, ne comprenant pas cette itération finalement du jeu, ne comprenant pas l'intérêt, et sont restés sur la version Super, donc la véritable nouvelle version.
Là on touche un point important, parce que c'est vrai que nouvelle édition, évolution, DLC, tout ça, c'est souvent pour les joueurs qui sont investis dans le jeu, qui prennent du plaisir, qui vont à fond. Pas la personne qui a le jeu, qui joue de temps en temps, qui l'aime bien, qui le partage avec ses amis, mais c'est vraiment la personne qui a envie de s'investir dans un jeu, qui va aller chercher de la nouveauté.
Bah on peut constater d'ailleurs que dans le mode solo de Super Street 4 AE, les nouveaux personnages n'ont pas le droit à leur rival quand ils arrivent. Enfin, ils ont un rival, mais il n'y a pas de présentation particulière. Le mode solo, en fait, il compte très très peu pour Capcom à ce moment-là.
Ils ont quand même leur cinématique moche.
Ils ont leur cinématique moche, vraiment un chier d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. Ils ont même fait pire que ça. Ils ont viré le thème de Gookie et de Gooken pour nous mettre un remix de Ryu pourri. Enfin bref, donc ils sont partis du principe que Arcade Edition était joué par des gens qui jouaient avec d'autres joueurs et qui connaissaient le jeu.
Exactement.
Mais ça, c'est le.
Ouais, justement, là, si on continue comme ça, du coup, ensuite, version 2012 sort, exactement pareil pour les 20 joueurs, mais mise à jour gratuite. Ouais. Attention, gratuite à partir du moment où tu possédais Arcade Edition.
C'était que de l'équilibrage.
De l'équilibrage, mais crois-moi que la différence entre Arcade Edition et version 2012 absolument gigantesque. Et ensuite, à mon avis,
le travail que ça a dû impliquer derrière pour faire une mise à jour n'est pas le même non plus.
Mais
tu touches les variables, tu ajustes.
Et ça, c'est correct. En fait, plus le temps passe, plus le travail pour faire des mises à jour sur des jeux comme ça est compliqué. Et ça vaut pour tous les jeux.
Et plus tu as de personnages, plus c'est compliqué.
C'est ça.
À chaque version, ils rajoutent des personnages.
Plus le code vieillit d'un jeu, plus souvent, comme tu dis, les équipes sont différentes. Les gens qui s'intéressent au jeu et qui doivent faire les mises à jour du jeu ont absolument été impliqués dans rien du tout du développement, connaissent rien du code et doivent prendre un code vieux qu'ils n'ont même pas appris dans leurs écoles. Ils doivent s'approprier ça, essayer de modifier des trucs comme ça.
L'exemple parfait, c'est la version PC qui a été confiée à un développeur de l'Est, un développeur polonais, je crois.
Je crois, peut-être. Oui, je sais pas, j'ai pas entendu parler.
Je me rappelle plus du tout. Enfin, la version PC de Street Fighter 4, la première version, était une catastrophe. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont reçu un code tout chaud du Japon. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. On leur dit, bah vas-y, porte-le sur PC. Et en fait, c'est un jeu PC. Parce que la version arcade était tournée sur PC. Qui a été portée ensuite sur console. Et là, les mecs, on leur dit, la version console, faut la porter sur PC.
C'est bizarre. Hein.
Mais on marche sur la tête, enfin. Il est où le respect ?
Alors, ce qui était compliqué dans ce cas de figure, c'est que la version d'origine, donc la version qui avait été effectivement développée sur un support PC, n'était plus celle qui avait été portée sur console parce qu'il y avait eu des mises à jour, notamment les nouveaux personnages, tout, etc., et qui se voyaient pas repartir.
Oui, puis ça a été transcrit avec un middleware
un
dégueulasse.
Peu bâtard, exactement.
Bref, ensuite, si on continue, donc il y a Ultra Street Fighter 4, et là justement, donc Ultra Street Fighter qui est réellement une nouvelle version du jeu, avec certes aussi des nouveaux persos, très bien, mais surtout une évolution du système profond, et Capcom a bien fait la pub par rapport à ça. Là où, à mon avis, ils ont.
Le vrai premier, parce que là, pour le joueur lambda, il y a tellement de changements de gameplay qu'on peut imaginer qu'il puisse comprendre que c'est un vrai
nouveau jeu. Non, moi j'ai parlé de nouvelle version Super Street Fighter 4. Après, les autres, c'est juste de l'équilibrage. On ne change pas le gameplay du jeu. Dans Ultra, on change le gameplay. Mais l'erreur, à mon avis, fondamentale qu'a fait Capcom, et parce qu'à mon avis, ils ne peuvent plus rien y faire, étant donné qu'ils. Non, c'est sûrement dans Ultra Street Fighter 4, c'est que l'habillage n'a quasiment pas changé. Et l'univers du jeu. En fait, tu as l'impression que tu prends un nouveau jeu. Alors, encore une fois, le jeu.
Mais d'accord, il y a des super costumes.
Le jeu coûte que 30 balles. Mais d'un point de vue de l'expérience solo pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Street Fighter, il va se retrouver avec la même expérience solo, finalement appauvrie et un peu dégueulassé que Super Street Fighter 4, quoi, qui est sorti il y a tellement de temps. Il y a pas réellement de. Visuellement, t'as vraiment l'impression de voir le même jeu. Enfin, si tu connais pas, je te passe la caractère select screen. Si t'as pas l'oreille fine, pour toi, c'est le même jeu.
Oui.
Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi réellement pas changer les modes de jeu, l'affichage, refaire réellement des modes défi pour tous les persos, etc. Il y a pas d'argent, et voilà, on sait, c'est compliqué. Mais globalement, on a quand même un nouveau jeu là-dessus.
On en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Ultra Street Fighter 4, il n'est pas fait pour le néophyte. Street Fighter 4, enfin Ultra Street Fighter 4, c'est vraiment un cadeau pour les fanboys.
Et de toute façon, il a été développé comme ça, voilà. Et même construit comme ça, en demandant à la communauté qu'est-ce qu'ils aimeraient
vraiment. Capcom, en fait, là où il est allé super fort sur celui-là et qu'il a carrément innové, c'est que tu peux acheter Ultra Street Fighter 4 à partir de ta version de Super Street Fighter 4 sur console,
exactement.
À partir de ta version arcade édition, et tu peux l'acheter en boîte ou en mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de gratter les fonds de tiroir, les déçus du jeu, ceux qui avaient lâché.
Ouais, mais en attendant, tu te retrouves avec un nouveau jeu encore pour 15 balles. Et le mec qui a acheté Super Street Fighter 4 et qui joue à Super Street Fighter 4 depuis Mathusalem, ça fait quoi, 3 ans, presque 4 ans qu'il n'a pas vu un nouveau Street Fighter, et le nouveau, il l'a pour 15 balles. Voilà. Ce qui est quand même.
C'est brillant, ce qui est quand même assez fort.
Parce que voilà.
Et c'est
pour mettre ce point en avant qu'il décale les sorties des versions physiques et des versions DLC, que les gens se rendent bien compte qu'ils puissent acheter le jeu à prix réduit dans sa nouvelle version.
C'est ça.
En plus à l'avance.
C'est ça. Mais même déjà, la version boîte est elle aussi à prix réduit, puisqu'elle est vendue que 30 euros dans le commerce.
La version collector,
tout ça pour vous dire. Oui, je sais. Tout ça pour vous dire que, évidemment, mise à jour. Quand on regarde le déroulement de Street Fighter 4, non seulement les mises à jour, on n'a pas eu tant que ça de payantes, et en plus, à chaque fois qu'elles étaient payantes, elles étaient loin d'être très très chères non plus. Donc ça peut râler. Alors évidemment, le versus fighting, c'est ghetto, ça râle. Donc dès que tu dois payer plus de 2 euros, fait chier. Mais voilà, bon, c'est pas
moyen. Après, les Japonais, il y a un autre style de jeu sur lequel ils sont très forts, et moi qui m'a un peu énervé, c'est sur les musos à distance.
Eh oui.
Tu prends Ken Warriors Rage chez nous, tu prends One Piece Pirate Warriors, c'est des jeux qui ont le droit à une première version, qui pouvaient être plus ou moins bien.
On peut parler des jeux à licence. Dynasty Warriors, pardon.
Vous savez, ces jeux avec plein de samouraïs autour de vous.
Il y a même la version Gundam, dont le 3 était super bien. Mais voilà, tu prends le premier One Piece, tu prends le premier Ken, tu prends le deuxième, plutôt Dynasty Warrior Gundam. Tu vois, t'as ton jeu, tu te dis, bon, il est bien ou moins bien, ça dépendra d'exemple. Ken était très mauvais, One Piece était vachement bien. Mais derrière, même pas un an après, ils te sortent un épisode suivant.
Et on arrive au 3 de Warrior.
Gundam Reborn, là,
Oui, mais celui-là, il change quand même pas mal la donne. Ils ont pas
parce
mal.
Parce que t'es fan de Gundam, mais pour One Piece, le Warrior 3, je t'assure qu'il va quasiment rien changer par rapport au Warrior 2.
C'est là où on a le problème, c'est qu'on arrive avec un jeu qu'on nous vend comme un nouveau jeu, qu'on nous vend quasiment plein tarif quand même, qui est en fait vraiment le même jeu, juste avec 2-3 petits changements par-dessus.
C'est des skins.
Limite cosmétique.
C'est des skins.
Limite
voilà.
Cosmétique. Je prends Pirate Warriors, on vous a rajouté une histoire différente. Pourquoi c'était pas un DLC? On vous a rajouté les costumes des personnages dans New World parce qu'on a eu la flemme de le mettre dans l'autre,
voilà.
On
n'a
mis que 3.
Et là,
et tout le reste, bah, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes ennemis.
Et là, tu payes 60 balles le jeu.
Alors, je crois qu'il était sorti à 40, si je dis pas de bêtises, mais c'est quand même vachement cher.
Mais c'est considéré comme un nouveau jeu, on est d'accord.
C'est un nouveau jeu, c'est un nouvel épisode, c'est marqué de Ken, c'était pire. Le nouveau Ken, je crois que. J'ai pas encore fait le deuxième, mais le premier, j'avais abandonné tellement il était mauvais. Mais Ken, les différences sont quand même assez minimes aussi. Ils ont peut-être rajouté un scénario ou deux, je crois, avec des personnages qui n'étaient pas jouables, qui sont devenus jouables, et puis c'est à peu près tout.
C'est fascinant quand même que tu aies passé autant de temps là-dessus, ça me.
Ouais, moi aussi,
ce qui est compliqué en plus avec ces jeux-là.
Je le temps que j'ai passé sur Dynasty Warriors Gundam 3.
Ce qui est compliqué en plus avec certains jeux à licence, là tu parlais de Ken, c'est qu'il y a des moments où, un peu comme Dragon Ball, où quand le manga est fini, toute l'histoire a été racontée, etc. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir?
Non, pas GT!
Sortir le nouveau jeu, je pensais même pas à GT, c'est-à-dire que là, par exemple, pour l'histoire par exemple, et pour l'histoire de Ken, c'est qu'ils te font un premier jeu où ils s'appuient sur le premier arc, et puis le deuxième, ils se disent bah, plutôt que de faire la suite, on reprend tout,
et on
rajoute un Shin, et puis
c'est
voilà,
c'est boulimie en fait.
Mais c'est ça.
Là, on touche justement à l'idée de fanboyisme, et ça s'applique tellement parfaitement au jeu à licence. Pour moi, le jeu à licence, c'est le plus grand cancer des mises à jour tous les ans qu'on te fait prendre pour une nouvelle version, qu'en est pas, et ça continue depuis tellement d'années, ça doit forcément fonctionner, c'est pas possible autrement.
Ah oui, ça fonctionne bien.
Mais
le problème aussi, c'est que quand tu fais ça, tu n'attends pas à faire les mêmes ventes.
Il n'y a pas que sur les musos, hein, franchement.
Oui, mais tu t'attends pas à faire les mêmes ventes. C'est-à-dire que tu refais ton jeu, tu n'investis pas grand-chose pour le refaire, et puis tu sais que tu vas te cibler, allez, on va dire, au moins 25% des gens qui ont acheté le premier, qui l'ont aimé, vont l'acheter. Et donc tu te fais des ventes pour pas trop cher, tu fais du chiffre quoi.
Mais vas-y.
Des fois tu peux te faire un score encore plus fort. Regarde, je pense à un jeu qui va bientôt sortir, c'est Tatrium Curtain Call.
Ouais.
Donc Final Fantasy, super grosse licence. Le deuxième, il reprend juste toutes les musiques du premier, tous les DLC du premier.
C'est ça.
Et il trouve le moyen de rajouter encore des DLC. Alors, le DLC dans,
alors,
dans le
gars
premier,
qui a acheté les DLC du premier, il se fait voler.
Bah, déjà, moi, voilà, je les ai tous achetés. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être une quarantaine de pistes. À 1€ la piste, tu payes quand même ton jeu 80€ à la fin. Et là, tu te dis.
Moi non plus.
Tu reprends le même jeu. Et
tu peux aussi dire, on peut pas savoir au début. Hein.
On peut pas savoir, mais j'étais assez con pour commander l'édition collector du 2 quand même. Donc, je sais dire à quel point je suis atteint sur.
Et en préco, il attend, il est au chaud.
Et je suis bien content en plus.
Moi aussi, je suis heureux.
Mais voilà, mais c'est ça qui est rigolo.
Mais c'est le même jeu, les mêmes personnages, ils t'en rajoutent quelques-uns bonus, tout ça, ils te refont encore des gros packs de DLC.
Il y a un mode versus, pour moi, c'est très important.
Incroyable.
Mais on note que vous n'êtes pas été sur internet pour dire c'est de la merde. Il y a quand même beaucoup de gens, on parlait tout à l'heure des jeux Dragon Ball, qui tous les ans disent oh putain, encore un nouveau Dragon Ball, mais qui vont quand même l'acheter.
C'est ça.
Mais alors, ça,
et qui vont cracher dessus.
Ça, c'est le syndrome de la majorité silencieuse, tu vois. C'est en fait, au final, il y a un DLC. Le DLC Mario Kart est sorti. Oh putain, Nintendo, ils ont fait des DLC, c'est dégueulasse, des gens se tapent la Mercedes.
Bande de Capcom.
Mais oui.
Ah oui. J'ai pas entendu beaucoup ça, il y a beaucoup de gens qui étaient quand même super contents du prix des DLC.
Mais la plupart des gens qui sont contents, c'est les gens qui ont Mario Kart. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui se plaignent sur les DLC alors qu'ils ont pas le jeu, tu vois.
Ça c'est vrai aussi.
En même temps, pourquoi se plaindre tout le temps des DLC? T'as quand même des DLC qui sont excellents.
Comment se plaindre quand t'as Mario Kart 8 aussi?
Voilà. Bah, c'est le problème. C'est que DLC... Le DLC, c'est un monde un peu trop large, c'est ça le problème. C'est un monde qui va de l'escroquerie au contenu génial et à bon tarif.
Mais on va y revenir dans un court instant. On va d'abord faire une courte page de publicité. Je voudrais juste revenir, juste avant qu'on coupe, à Pipo de aubagauchedroite.fr qui vient nous envoyer un tweet pour nous dire que le système de génération des dates Phantasy Star 3 est sorti un an avant Dragon Quest 5. Voilà.
Dans les dents.
Ouais, bah voilà, c'était justement la question que je posais. Je savais pas si c'était Fire Emblem ou Phantasy Star.
Ben, moi j'avais un méga doute aussi, et donc merci Pipo. Et nous on se retrouve dans quelques instants sur des mages. A tout de suite.
A tout de suite.
C'est à nouveau thème des JC. Vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours des mages. Et on se pose toujours la question aujourd'hui de savoir si les mises à jour ou les nouvelles versions sont du fanboy ou sont une escroquerie. Et j'ai à mes côtés trois invités. Ben, on en a perdu un. Il est passé où, Ken Bogard?
On l'a mangé.
On l'a mangé, d'accord. Donc pendant la pub, on a bouffé Ken Bogard.
Il a fusionné avec Valentin.
Je suis toujours avec Well Cook. Je suis toujours avec ALS et je suis toujours avec Yamato. Et il y a une question que je voulais vous poser par rapport à ce qu'on était en train d'exprimer tout à l'heure. On imaginait tout à l'heure qu'il y avait deux catégories de joueurs, le joueur lambda et le joueur qui était plus investi autour de sa licence. Et puis, on a pour l'instant
le fanboy.
On a évincé pour l'instant tout ce qui est e-sport, on l'a vaguement exprimé tout à l'heure, qui est encore une autre catégorie de joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas certaines licences, et on ne va pas repartir forcément sur Street 4, mais sur il y a d'autres formes de jeux là-dessus, qui... Ne se retrouvent pas justement dans une situation où ils sont obligés de prendre en compte cet aspect-là des choses avant tout le reste. Est-ce que ça ne les pénalise pas lorsqu'ils doivent vendre le jeu au grand public?
Alors, on va mettre les pieds dans le plat, on va utiliser un terme que j'aime pas du tout, mais j'ai pas mieux. On va parler des licences commerciales.
Oui.
Alors, on va parler des licences commerciales. Les licences commerciales, c'est quoi? Pied dans le plat, FIFA, Call of Duty, les Sims.
Plutôt que commercial, tu peux peut-être dire les licences grand public.
C'est pas vraiment grand public, hein. Un Call of Duty n'est pas grand public.
Bah si,
il est grand public, mais
c'est
quoi diffusion
de grand public? Grand public, c'est un truc qui va toucher le maximum de personnes.
Ah d'accord, ça commence à jouer sur les mots. Hein.
Mais non, ça joue pas sur les mots.
Non mais c'est vrai, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Moi j'ai plutôt tendance à prendre grand public sur les gens qui ont pas forcément une connaissance très pointue et qui cherchent du divertissement rapide, prêt à consommer.
Tu peux consommer un Call of Duty comme ça
en fait.
Tu peux consommer un Call of Duty
comme
ça.
Oui, voilà, exactement, mais c'est aussi... En fait, Call of Duty, c'est une série qui peut également s'avérer très pointue dans des plaises aux trolls et à tous ceux qui doivent être en train de se déchaîner contre la licence. Mais ça, c'est le genre de jeux qui ont des business models qui sont infaillibles à l'heure actuelle, où certains commencent à faiblir un petit peu, mais c'est des machines de guerre. On en parlait pendant la pause. Du coup, on va peut-être commencer par les Sims, puisque toi, c'est un peu ta spécialité, non?
On parlait de l'e-sport, en même temps, l'e-sport sur les Sims, c'est un peu compliqué, là.
On peut faire une parenthèse non, Sims, ça me pose pas de problème.
Parce que tu parlais du fanboyisme, mais c'est vrai qu'il faut forcément être hyper investi dans un jeu pour pouvoir acheter tout ce qui est DLC, tout ce qui est ce genre de choses.
Excusez-moi, mais les Sims 2, déco intérieur, ouais, il faut vraiment être investi,
non, mais c'est sûr. Les Sims 3, c'est encore pire, parce que les Sims 3, le jeu de base, c'est quand même déjà 50€,
oui.
Et il y a eu 11 add-ons à 30€.
Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les
titres add-on à 30€?
Tu veux les titres des add-on?
Allez, juste pour avoir...
Alors,
dans l'ordre, tu les as déjà acheté plein pot, les add-on?
Oui. Oui, mais après, c'est défrayé, hein, je fais les tests, donc ça va. Destination aventure.
C'est moins grave.
Ambition. Accès VIP. Showtime.
Je les connais par cœur, la vache.
Non, ouais, j'ai du mal.
Après. En gros,
animaux, enfin les saisons.
Qu'est-ce qu'on a comme spécificité
voilà,
à chaque fois dans ces items justement.
T'as vraiment un univers différent à chaque fois. Par exemple, dans le jeu de base, t'as pas les saisons, donc t'as un truc qui apporte les saisons avec des fêtes en plus. T'en as un qui apporte les animaux, donc ça c'est
Et ça se cumule cool. à chaque fois.
Ça se cumule à chaque fois, donc à la fin, t'arrives à une espèce de gros gloubi-boulga qui fait
t'as
que t'es
gigas.
Complètement dégoûté et que t'as plus vraiment envie d'y jouer. Ça m'a fait le truc après les Sims 2, après les Sims 3, ça m'a fait le même effet. Je parlerai pas des Sims 4 parce qu'il sort que demain, mais vous verrez le test.
À minuit de voir, j'en suis en train de faire la queue.
C'est ça. Mais voilà, donc tu as 11 add-ons à 30€. Tu as en plus les kits d'objets à 20€. Je crois qu'il y en a pas une petite dizaine qui est sortie, plus tous les DLC qu'il y a sur le site. Au final, si tu veux acheter tout ce qu'il y a sur les Sims, je sais pas, tu débourses près de, je sais pas, peut-être 2000€, j'en sais rien, je me rends pas compte. Mais c'est juste des sommes incommensurables. Et effectivement, si tu n'es pas un grand fan de la série, c'est pas possible de vouloir acheter ça parce qu'en plus, faut vraiment, pour le rentabiliser, il faut vraiment y jouer des heures.
Ah, c'est la question que j'allais poser. Pour combien d'heures de jeu, grosso modo, quand tu joues à ce genre de jeu, tu y passes combien de temps?
Sur le tout premier épisode des Sims, avec tous ces add-ons, j'y ai passé mais vraiment des centaines d'heures. Et c'est très très bien. Déjà, vers la fin, les add-ons des Sims 2 et des Sims 3, surtout sur les Sims 3, c'était beaucoup moins bien. Et ils ne savaient pas trop quelle direction donner à la série, notamment à cause du jeu, les jeux Facebook, enfin les jeux sociaux. Donc ils ont foutu plein de nouvelles fonctionnalités sociales dans les Sims, ce qui n'était pas terrible. Ce qui était bien par contre, c'est que le jeu de base, même si tu n'achetais pas les add-ons, il avait fréquemment des mises à jour gratuites avec plein de nouvelles fonctionnalités. Bon, moi, c'est vraiment des trucs qui m'emmerdent, genre des récompenses, des murs de joueurs, des.
Il y a des succès dans les Sims.
Tu as des succès qui sont arrivés et tout. Wow. Et tout ça, vraiment, tu t'en Bravo. Fous, quoi. Mais voilà,
vous
au moins,
avez votre premier couple. Ouais.
C'est amené gratuitement, tu vois. Donc, ça, au moins, c'est un truc cool.
C'est le vortex, en fait, hein, ce jeu. C'est... Mais alors, voilà, si même toi, tu arrives à trouver, en fait, certains contenus additionnels indigents, effectivement, on peut pas dire que c'est juste too much, en fait. C'est carrément trop. Hein. C'est carrément de l'arnaque.
Non, mais ce qui est trop, surtout, c'est que. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que dès le début, dès les Sims 4, de toute façon, ça sera aussi le cas, et dès les Sims 3, c'était aussi le cas dès le début, ils savent quels add-ons vont sortir.
Oui, ils ont une roadmap.
Donc, mais vraiment, je pense, depuis le début jusqu'à la fin, d'ailleurs, il y avait des joueurs qui avaient un petit peu hacké, je ne sais plus trop quoi, ils avaient dit « Oh, il y aura 11 add-ons pour les Sims 3 ». Bizarrement, il y en a eu 11.
Bah, d'un autre côté…
Je ne sais plus si c'est 10 ou 11, d'ailleurs. Mais
c'est pas évident, dans un jeu comme ça, d'empiler 11 add-ons, si tu ne les as pas prévus à l'avance, pour qu'ils marchent tous ensemble empilés.
Non, mais c'est ça, mais je veux dire, c'est vraiment le… Il marche complètement sur la tête. Avant, quand tu faisais un add-on, c'était parce que le jeu avait marché. Donc tu dis, on va donner du contenu, les gens ont acheté le jeu, on a un vrai marché, on va foutre un vrai contenu imposant.
Il y a eu combien d'add-ons sur le premier Sims?
7. On va foutre donc du contenu. Le premier Sims, ils n'y croyaient pas du tout d'ailleurs. Au début, personne n'y croyait. Chez EA, ils disaient, ouais, maison de poupée pour le truc, ça marchera jamais. Résultat, le jeu a cartonné, ils ont fait des add-ons, les premiers ils ont tâtonné, ils ne savaient pas trop quoi foutre, c'était plutôt des kits d'objets. Après, ils ont fait des vrais add-ons d'envergure et à la fin, les tout derniers, le dernier c'était Abracadabra qui était quand même un truc hyper gros et qui te faisait une vraie durée de vie avec des vraies implications. La suite, c'était vraiment hyper commercial et du coup, tu te dis vraiment, ça n'a plus aucun sens maintenant les add-ons puisque les add-ons, c'est prévu dès le début. C'est pas normal, tu vois, quand on dit ton jeu, il va sortir, on sait qu'il va avoir ça. Pour moi, c'est carrément pas normal parce que ton jeu, le jeu de base doit forcément être plein et entier et apporter vraiment quelque chose de nouveau. Sinon,
ah oui, donc ce qui te gêne en fait, c'est donc la mécanique de se dire qu'ils ont peut-être bridé le jeu qu'ils ont sorti dans la perspective d'ajouter des trucs après.
Pas forcément bridé, mais par exemple, du passage des Sims 2 avec tous les add-ons au passage avec les Sims 3 seuls, ils te suppriment des choses assez quand même logiques.
La régression, d'accord,
la régression, de la génération comme, par exemple, à l'autre. On te retire les saisons, on te retire plein de trucs qui devraient être dans le jeu de base, tu vois.
Oui, parce qu'ils ont déjà été avant.
Une fois que tu avais tout ton premier jeu en entier avec tous les add-ons, il était logique d'imaginer les voir dans le deuxième.
C'est normal qu'il y ait des choses en moins. Après, quand tu as une régression, je pense que c'est hyper problématique. Et quand tu te retrouves avec un nouvel épisode, donc là, je parle des Sims 3, qui est complètement indigent pour le coup au début, c'est un petit peu difficile. Surtout quand tu dis ils ont tout prévu pour la suite. Franchement, à quoi ça sert de claquer 50 balles pour un jeu qui voilà.
Mais là tu soulèves une question qui est très intéressante et qui est compliquée à répondre, parce que je prends l'exemple d'un jeu de combat où par exemple tu prends un jeu.
On y revient toujours.
Non mais je vais pas rester là-dessus, mais c'est juste pour citer un exemple. Tu as un jeu, tu achètes des costumes. Bon, très bien, tu les as achetés, etc. Il y a une nouvelle version qui sort du jeu. Et puis pas de bol, dans le jeu, les costumes sont intégrés. Donc t'as ceux qui sont contents, qui achètent la nouvelle version, qui disent ah bah c'est cool, maintenant j'ai les costumes, etc. Et t'as ceux qui ont payé le premier coup les costumes, qui disent bah non. pourquoi du coup les costumes ils sont gratuits dans celui-là, ça va pas. Et à côté de ça, t'as ceux qui du coup, t'as les jeux de combat où tu vas acheter le premier, tu dois acheter le costume dans le premier. Si tu le veux dans le deuxième, faut que tu l'achètes aussi. Donc on est encore dans autre chose qui fait que on n'arrive jamais à contenter tous les joueurs en fait.
Mais
finalement,
c'est un peu comme les versions GOTY qui sortent de façon avec tous les DLC.
Par exemple,
c'est exactement la même chose. Quand tu vois que tu peux avoir ton épisode de Red Dead Redemption avec tous les add-ons à 10€ alors que tu l'as payé plein pot et que tu as acheté tous les DLC derrière, forcément, tu es un petit peu vert. Après, c'est aussi tout le monde le sait, quand tu achètes le jeu le premier jour, tu te fais forcément pigeonner, entre guillemets, tu payes ton droit plus cher de jouer au jeu avant les autres.
Bah, c'est
juste
ça.
C'est pas juste jouer au jeu avant les autres, c'est parce qu'il y a aussi l'enjeu du online où tu sais que si tu joues pas tout de suite, tu vas peut-être arriver après que les joueurs aient déserté. Ça peut être gênant sur certains jeux.
T'as des versions GOTY sans online, mais c'est juste que forcément, une fois que le jeu est rentabilisé, ils peuvent te le sortir beaucoup moins cher. Donc ça, c'est quand même le droit de « oui, moi je veux jouer avant tout le monde ». Faut aussi l'accepter au bout d'un moment.
Même aujourd'hui, même le droit de jouer avant tout le monde, il est un peu mis à mal en termes de prix. Quand tu vois les gens qui peuvent commander leurs jeux en Angleterre ou même aux États-Unis, des fois au bout de deux semaines, les prix peuvent complètement se casser la gueule. C'est même le fait de surpayer pour être primo accédant au jeu, c'est quelque chose qui perd de sa valeur aujourd'hui.
C'est un peu le problème. Et du coup, on a également, en rapport, comme tu disais, dans les Sims 3, ils avaient effectivement la roadmap de prévu avec les 11 add-ons qui étaient, à mon avis, timés à des
tous les 6 mois, tac,
là, c'est
quasiment.
Pareil. Maintenant, on te vend le jeu et hop, Season Pass.
C'est ça.
Alors, Borderlands 2, on peut citer BioShock Infinite.
Mais là où c'est pire avec Season Pass, c'est que souvent, on te le vend et tu sais pas ce qu'il va y avoir dedans.
Tu sais pas toujours. C'est la
des fois, tu
surprise.
Sais. Des fois, tu sais, mais pas toujours.
Mais c'est encore pire. Enfin, tu dis, sérieux, les mecs, ils sont déjà prévus. Pourquoi ils le foutent pas dans le jeu de base, même si effectivement, ça revient plus cher.
C'est compliqué pour certains jeux qui sont épisodes. Tu prends The Walking Dead, par exemple. C'est, on se retrouve dans des situations où c'est quand même pas
ça. Non, c'est pas juste ça.
C'est un bon exemple, parce que t'achètes la saison complète. Ouais. Alors après, tu peux, effectivement, surtout, ALS pour nous en parler très, très évidemment, parce qu'il a testé la saison 2, mais tu t'exposes au danger qu'un épisode soit moins bon qu'un autre si tu achètes toute la saison d'un coup. Mais de l'autre côté, si tu n'achètes pas tous les épisodes, tu n'as pas toute l'histoire. En fait.
Donc, oui, ça, c'est diabolique. Alors, c'est pas mal un bon exemple, mais j'imagine pas jouer un épisode de Walking Dead en sauter un parce que je me dis, tiens, on m'a dit qu'il était pas bien pour jouer au troisième, par exemple. Enfin, c'est un truc que je pourrais pas faire.
Mais c'est horrible parce que du coup, tu vas te taper une purge juste pour avoir le lien entre l'épisode que tu as kiffé et l'épisode 3 qui est génial. Tu tapes le 2 qui est infâme. C'est terrible.
Bon, tu peux avoir le même problème au cinéma en même temps.
C'est dramatique. Ah bah ça, oui, ça c'est sûr.
Mais là, c'est le jeu qui est saucissonné. C'est pas forcément des DLC, c'est pas du contenu. C'est pas vraiment du contenu supplémentaire, si tu veux.
Non.
Ça, c'est le jeu qui est comme ça. Mais genre dans BioShock Infinite, enfin moi, le prix des add-ons de BioShock Infinite, j'ai trouvé ça aberrant. Quoi. C'était quoi? C'était 15€ pour.
15€ Burialaxia.
Ouais, voilà.
En fait, le
15€ qui était en deux parties. Donc
le
deux fois,
c'était à 30€.
Ouais.
Et donc t'avais Burialaxia, deux épisodes, et t'avais
le mode. Voilà.
Qui était
sympa, pas bon. Mais sans plus. Quoi.
Voilà, j'ai même pas bon.
On se demande sur le chat quelle est la frontière entre le DLC et l'add-on.
Bah, le DLC, chose, c'est.
Non, attention, parce que si on parle du DLC au sens littéral du terme, le DLC, c'est.
Ça se télécharge.
C'est un mode de.
C'est un add-on qui se télécharge.
C'est du contenu
en fait.
Qui se télécharge. Donc ça peut être une bagnole, ça peut être une quête, ça peut être un personnage. Ça
et
peut
le
être,
DLC n'est pas forcément payant.
Voilà, c'est du DLC gratuit, payant.
Enfin, le DLC n'est pas nécessairement un add-on. Un add-on, ce sera toujours quelque chose qui va t'apporter du contenu dans ton jeu. Si c'est un DLC pour corriger des bugs, des trucs
ça
comme ça, ce
DLC
sera pas un add-on.
Enfin, mais... voilà. En fait, les gens oublient souvent que DLC, c'est un terme technique.
Ouais.
Le DLC, c'est la méthode de distribution d'un contenu.
Ça veut dire
en fait.
Download content, quand même.
Voilà.
C'est du contenu.
C'est du contenu téléchargeable.
Donc, c'est quand même du contenu.
Oui.
C'est pas forcément une méthode.
Non, c'est un terme technique. Enfin, le downloadable est la méthode, en fait.
Yes.
Voilà.
Tu veux dire que c'est un procédé de distribution. Quoi.
Exactement.
C'est ça. C'est-à-dire que bon, effectivement.
Du coup, il y a le download, le contenu téléchargeable, il y a le contenu sur disque à l'époque. Hein. À Broudoir, c'était du contenu sur disque.
Oui,
tout simplement.
On parlait tout à l'heure des contenus gratuits et je repensais à un truc, c'était toujours du coup un petit peu avec le rapport avec les Sims, parce que là, je pensais à SimCity. Le problème du contenu gratuit, c'est que les éditeurs se disent de toute façon, on peut sortir un jeu qui est pas fignolé. On pourra toujours rectifier le tir plus tard, on va faire une petite mise à jour gratuite, le jeu finalement, voilà, comme ça il sera un peu mieux. SimCity, quand il est sorti, les vrais fans de la série ont complètement hurlé, enfin je parle vraiment du dernier épisode, parce que les cartes étaient trop petites et il fallait forcément en plus jouer en ligne parce qu'il fallait la puissance du cloud apparemment pour pouvoir calculer les
mon cul
les
sur interactions. La commode.
Ouais, voilà, ça a été très vite démonté cette histoire. Ouais. Et bizarrement, un an plus tard, on dit « Oh, on a réussi à faire un patch pour faire fonctionner le jeu sans connexion. » Ils ont attendu un an pour faire ça. Au passage, ils n'ont pas corrigé le truc sur les maps. Enfin voilà, le problème de la mise à jour.
Map qui était bien trop petite.
Avant, quand tu pouvais pas faire de mise à jour, sur tes consoles qui n'étaient pas connectées, sur ta bonne vieille SNES, au moins le jeu, s'il était buggé, bon ok, c'était dommage, mais les éditeurs prenaient vraiment soin que le jeu était hyper fini au maximum, de réduire au maximum les bugs. Maintenant, ils s'en foutent. Ils peuvent sortir un jeu pas fini, ils peuvent sortir un jeu pas fini.
C'est pas forcément vrai parce que.
Là, je suis désolé, je suis vraiment d'accord là pour le coup.
Franchement, t'as des jeux finis à la pisse qui sont complètement injouables.
Mais déjà à l'époque, regarde, tu prends n'importe quel RPG de l'époque Interplay, Fallout 1, Fallout 2, tu prends Baldur's Gate, tous ces jeux, les premières versions qui sont sorties, il y avait des correctifs que t'allais acheter joystick. Pour avoir juste le CD,
pour avoir le CD avec le patch du jeu.
Juste parce que t'avais une quête qui se déclenchait pas, c'était
à l'époque, on
dans
avait
la première heure de jeu.
Alors,
déjà le respect n'était plus là.
On est d'accord que ça existait.
C'est beaucoup plus rare.
Ça existait. Mais on est d'accord que dans l'ensemble, avant l'ère internet, les
éditeurs
faisaient. Enfin, ils se disaient quand je sors mon jeu, il faut qu'il soit fini.
Il y avait quand même une bonne culture du pas fini sur PC. Mais c'était pas forcément volontaire.
Mais le problème sur console, c'est que le coût de rattrapage d'un bug. C'était beaucoup plus élevé que ça peut être aujourd'hui avec un patch. Rappelle-toi, par exemple, Capcom Fighting Jam.
Oui.
Où il y a eu
bon
un
exemple.
Bug sur la version japonaise, c'était sur Honda, je crois.
Non, pas Honda, parce qu'il n'est pas dans le jeu, mais...
Capcom Fighting Jam, il y a Honda dedans. Oui.
Capcom Fighting Jam, mais non.
Non, si.
Honda, Bison, Ryu...
Non, il y a Ryu, Gail, Zangief...
Ah, c'est Zangief, pardon.
Excusez-moi, pardon.
Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas autre. Mais en tout cas, donc, voilà, ce jeu...
J'ai joué au jeu,
la honte. Je me souviens même plus ce qu'a été les bugs, mais c'était un bug monstrueux. Et Capcom a été... non, c'était même un bug à la con, c'est pas la musique qui tournait pas ou un truc comme ça qui était pas bon, je sais
plus. Non, c'était pas ça, c'était un bug de gameplay si je dis pas de bêtises, et oui, c'était un truc qui était assez énorme pour voilà. C'était étonnant que ça
mais
c'est
la
pas
conséquence
été vu,
a été quoi. C'est qu'ils ont été obligés de rappeler tous les jeux, de dire aux clients de leur envoyer leur jeu pour redistribuer après une nouvelle version en copie physique qui n'avait plus de bug.
Spécifique à la version japonaise.
Voilà, et le coût d'une opération comme ça... C'est quand même vachement cher. C'est arrivé aussi à SNK, mais bon, c'est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre sur des cartouches.
C'est pas arrivé sur des jeux cartouches, justement.
SNK, Samurai Shodown, où ils ont rappelé une fois, je crois, les 5 pour les modifier.
Bon, heureusement, de toute façon, à l'époque, ça coûtait tellement cher qu'il y avait 15 acheteurs dans le monde, mais...
À l'époque, c'était 12, je crois, encore.
Parce qu'à l'époque, il fallait hypothéquer sa maison et une voiture pour acheter une Neo Geo et jouer au jeu. Donc,
oh non, t'es méchant. Samurai Shodown, là, on était déjà dans les années 2000 bien entamé pour ces jeux-là. Mais voilà, et puis... Et puis, d'un autre côté, le contenu additionnel sur cartouche, les éditeurs se sont assez peu essayés. Il y a l'exemple de Sega avec Sonic et Knuckles.
C'était une expérience, d'ailleurs. Oui.
Qui ont fait cette expérience. Mais voilà.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un nouveau jeu ou pas? Ça, c'est un...
Pour le coup, oui, c'est un nouveau jeu. Et c'était un nouveau jeu, et à côté, c'était aussi du contenu supplémentaire. Bon, c'était un peu succinct pour Sonic 2 et 3, mais c'était quand même un add-on sympathique, quoi.
Il était vendu à prix réduit, si j'ai pas de bêtises, par rapport au jeu original.
Je peux pas dire, je suis plus très Nintendo personnellement.
Là, mes souvenirs n'ont pas assez loin pour ça.
Mais voilà, donc c'est des choses qui ont quand même été testées. Et puis bon, malgré tout, l'historique du contenu additionnel, il est quand même né sur ordinateur personnel, sur les Amiga, les Atari, les PC, les CPC, voire même, si on veut remonter assez loin, chez Amstrad. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même. Qui était quand même de très ancien. Parce que moi, honnêtement, quand j'étais gamin, que je jouais encore sur mon Atari 720ST, j'avais l'impression que tous les jeux avaient systématiquement un add-on qui sortait quelques mois après la sortie du jeu initial, pour le compléter, le renchérir, lui rajouter des données dessus.
Mais Alès disait quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure. Tu exprimais le fait qu'effectivement, il y avait une culture avant qui était qu'on avait ce sentiment que le jeu avait fonctionné. Et donc, comme il avait fonctionné, on avait envie d'entretenir la hype, on avait envie de faire plaisir aux gens qui avaient acheté le jeu. Donc, on proposait du contenu additionnel et pas forcément en plus payant. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand il y avait un vrai contenu supplémentaire payant, c'était quelque chose de neuf.
Et puis,
aujourd'hui, c'est vrai que culturellement...
Sur PC, c'est autre chose, c'est que c'est pas que les développeurs qui font ça. Il y a quand même eu toujours beaucoup de communautés de joueurs qui ont fait du contenu additionnel pour les jeux qui pouvaient sortir sur PC, qui étaient mis à disposition gratuitement des communautés sur lesquelles les développeurs s'appuyaient parce que eux, ça leur permet de proposer du contenu gratuitement, donc ils le valorisaient. Et il y a eu beaucoup d'exemples de jeux qui sur PC qui sortent avec des outils utilisés par les développeurs pour développer le jeu, enfin le contenu du jeu en tout cas, pour que les joueurs puissent en développer aussi. Donc voilà, c'est quand même une philosophie
qui s'était
développée.
C'est quelque chose qui fait de nos jours peur à certains éditeurs, puisque le problème d'autoriser les mods sur un jeu, c'est que tu ne maîtrises plus la durée de vie de ton jeu. Donc du coup, tu prévois une roadmap et tu te dis, bon ben voilà, cette année je sors machin chose bidule, l'année prochaine je sors machin chose truc. Si tu expulses, si tu autorises les mods en fait sur le premier, ça se trouve les mecs sont encore en train dessus à fond parce qu'ils ont la communauté a sorti un gros patch et la deuxième version du coup ben elle sera presque boudée.
Mais il y a eu des exemples de jeux comme ça effectivement où le deuxième épisode s'est un peu cassé la gueule parce que le premier s'était tellement enrichi. Alors j'ai plus un exemple très concret en tête mais ça s'est déjà vu quoi, des deuxièmes épisodes qui ont eu du mal à s'imposer à cause des premiers enrichis de manière très conséquente par les communautés. C'est pas un plus grand. Mais après, je veux revenir sur autre chose que disait ALS avec Valentin tout à l'heure. Ce qu'on est passé un peu vite, c'est cette sensation d'avoir un jeu amputé et de ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas intégré au jeu de base ce qu'ils ont ajouté après en DLC ou en Season Pass. Parce qu'il y a quand même derrière tout ça des questions, peut-être de gestion de prochain, on va dire, mais des questions de budget avant tout. Et un budget qui est alloué à un DLC et au jeu de base sont découplés. Ce sont deux budgets différents. Et l'un et l'autre. A besoin de. Enfin, le développeur a besoin de rentrer son budget sur chacun des développements par rapport aux bénéfices qu'il va rapporter. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont amputé volontairement le jeu ou est-ce qu'ils ont débloqué du budget en plus pour aller développer un contenu additionnel qui aurait peut-être payé dedans avec le budget du jeu qui aurait été plus conséquent mais avec un retour sur investissement qui n'est pas le même.
Bah, c'est le cas,
c'est très compliqué à gérer ça.
Mais
c'est
le cas, on en parlait tout à l'heure, mais rien que je repense quand j'avais acheté Resident Evil 5 et que tu avais appris qu'il y avait un mode multijoueur, sauf que tu devais acheter et débloquer la clé. T'es quand même un petit peu vert.
Ouais, enfin, quand tu vois que ton DLC il fait 500 kilooctets, voilà, tu te dis qu'il y a quand même aussi.
La grosse arnaque, quoi. Enfin,
c'est... Mais c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on a l'impression que les éditeurs oublient qu'ils travaillent pour leurs clients. Et ça, c'est vrai que ça peut parfois être rageant.
Ouais, enfin, ils travaillent pas non plus pour leurs clients. Il y a beaucoup de gens qui sont très exigeants chaque fois. Voilà, on va faire des pétitions pour tout, pour rien, pour une nouvelle fin, pour un jeu. En même temps, si les gens n'achètent pas, voilà, les éditeurs, ils sont en train de faire des conneries. Je veux dire, si les gens n'achetaient pas, passaient leur temps à comment dire, acheter les nouveaux trucs de Call of Duty, c'est la même chose. Enfin, pardon, moi, je ne joue pas du tout à ce genre de jeu, mais c'est ce que j'entends dire.
T'es en train de te faire foudroyer sur Internet, là.
C'est pas grave, je m'en fous.
Tu ne pourras plus sortir tranquille dans la rue après.
Non, enfin, voilà, je veux dire.
Safe.
C'est, si les gens n'achetaient pas, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a aussi un intérêt. Donc, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe et dire, voilà. Enfin, je veux dire, tout le monde y trouve son compte, finalement.
Après, il y a juste une chose, c'est vrai que dans tous ces problèmes où on a parlé de scandales, de trucs insupportables, il faut quand même voir que dans énormément de cas, ça venait quand même du Japon. Toutes ces histoires de DLC qu'on trouve à des. Qu'on considère que le rapport offre-prix n'est pas pertinent, on a quand même l'impression que ça vient beaucoup du Japon. Mmh. Et que c'est le Japon qui a un gros problème dans la relation. Alors, ça, quand enfin, moi, je travaille dans l'industrie, j'ai déjà eu à discuter avec des Asiatiques et des Japonais notamment, et c'est quand même eux le rapport qu'ils ont entre clients et vendeurs. Est quand même particulier et très différent de la mentalité qu'on peut avoir nous en Occident. Donc je pense que ça. Ils sont comme d'habitude, ils sont quand même dans une vision très nippocentrée sur la manière d'aborder les choses, en se disant si ça marche à côté dans le reste du monde, bah, c'est un hasard, tant mieux. Et forcément, derrière, bah, ils ne se rendent pas compte de la bonne manière d'aborder les choses.
Un cas effectivement où il y a eu au Japon, on va parler, c'est JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle, le jeu de combat qui est sorti sur PS3 chez Bandai Namco. JoJo est sorti en fait au Japon, c'était l'été de l'année dernière, ouais, c'était l'été 2013.
Ouais, c'est ça.
Le jeu a cartonné. Première semaine de vente, tout le monde le veut, tout le monde l'achète, tout le monde y joue, c'est génial.
Je peux faire une petite parenthèse là-dessus. Il faut juste rappeler que ce jeu est tiré d'une licence ultra connue au Japon. Qui dure depuis X années et que en France majoritairement, alors on est quelques-uns à l'avoir connu à l'époque, mais les gens le découvrent véritablement aujourd'hui.
Les éditions Gélu, Jérémy.
Voilà, non, les vrais savent.
Traduction dégueulasse.
Ceux où ils renversaient du monde pas sur la planche.
Mais du coup, on se retrouve effectivement dans une situation où aujourd'hui, il y a aussi un petit côté hype en France de faire genre je connais le truc, etc. Et en fait, ça n'a pas forcément fait vendre le jeu.
Non, mais le jeu n'a pas marché. Mais donc au Japon, les gens ont lancé leur jeu, l'ont installé, ont commencé à jouer. Et là, mode campagne, ils vont dedans. Et là, ils se retrouvent devant une espèce de mode free-to-play au sein du jeu. C'est-à-dire que tu achètes ton jeu neuf, et là, tu as un mode de jeu où tu dois effectivement faire des micro-paiements. Alors, soit tu attends une demi-heure de récupérer, non, c'était 2 heures, je crois, à l'époque, de récupérer un degré de batterie qui te permet de faire un match, soit tu fais des micro-paiements. Et en plus, il y avait des persos annoncés déjà en DLC payant et tout. Enfin, c'est... Là, les mecs, ils ont tous pris le jeu, ils l'ont rapporté chez leur revendeur, et ils ont fait « j'en veux plus ». Ce qui fait que tu avais des JoJo d'occasion quasi neuf, dans les bacs au Tokyo Game Show, le jeu se négociait à 3 000 yens, alors qu'il avait été vendu 7 000 yens 3 semaines avant.
tu vois. Et c'est là que tu vois que le rapport effectivement des Japonais avec les DLC est très curieux, parce que dans certains cas, il y a des DLC qui sont très généreux. Je pense particulièrement au DLC, le premier Dark Souls, qui avait un DLC qui arrivait complètement au pif. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là le DLC? C'est bizarre et tout. 15 euros, bah, on avait un super challenge, des nouveaux boss, un univers magnifique et tout. Et à côté, on avait Katamari Damacy, la première version Xbox 360, avec des clés à débloquer, avec des DLC complètement ridicules en fait, ou les costumes de Street Fighter Cross Tekken. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas en fait, ils ne savent pas, c'est trop différent de leur méthode d'approche. Ouais.
Mais vite fait sur les micro-paiements, parce que ça m'a fait penser à un truc, j'avais halluciné dans Bravely Default, où tu peux faire les combats, donc un super RPG sur 3DS. Pendant tes combats, tu peux micro-payer des actions supplémentaires pour mettre le jeu. Genre le jeu se met en pause et tes personnages peuvent agir pendant que le boss n'agit pas. Et tu payes pour ça, tu vois, tu peux acheter avec du vrai argent. Je fais, mais c'est pas possible quoi.
Mais dans Tales of
Facebook,
aussi,
qu'as-tu fait quoi? Je
veux dans Tales of aussi, t'as des micro-transactions pour devenir plus fort, pour être plus
oui, facile. Tu peux acheter des petits DLC pour monter les niveaux dans les RPG, c'est vrai que t'as pas le truc comme ça. Ouais.
Et ça, c'est des trucs qui sont tellement impensables, enfin tu casses le jeu quoi, littéralement.
Oui. Enfin, le problème c'est qu'acheter un jeu comme ça plein pot et on se rend compte que derrière il a une dimension free to play, ça fait un peu mal au cœur.
Oui, là c'est la double peine quand même.
Enfin, c'est ça.
Mais ça retire rien aux qualités de Bravely Default, tu vois, mais c'est juste que tu
là,
dis
qu'est-ce que
ça fait là quoi, c'est pas normal.
Et là c'est une erreur en fait de conception, clairement.
Bah après s'ils se font des thunes là-dedans, il y a des gens assez bêtes pour payer ça ou assez nuls, enfin j'en sais rien, c'est leur problème.
Le problème qu'on a effectivement avec ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas les chiffres, on sait pas si ça a bien marché ou pas.
Non, c'est vrai qu'on c'est
a comme les... Bah on verra sur Bravely Default si c'est la même chose.
C'est logique, effectivement.
Bon, on aura l'occasion de revenir dessus, mais en parlant de thunes, moi je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants. On va faire une petite courte page pub et puis on revient.
T'es plus bon pour la télé, toi.
Ah, j'essaye. À tout de suite. C'est toujours TMDJC, vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours des matchs, j'en bafouille. On est toujours à se poser la question de savoir si les mises à jour ou les nouvelles versions sont une escroquerie ou un cadeau des éditeurs aux fanboys. Et je suis toujours accompagné de Yamato. C'est dommage, on n'a pas de public pour applaudir quand je dis ça. Il manque quelque chose ici. Voilà, Yamato.
Là, ça fait un peu auto-suçage, en fait.
Ouais, mais j'aime bien. Je suis toujours avec ALS. Eh ben oui, alors ?
Pardon.
Applaudis-moi.
Ah, pardon.
Bravo.
Félicitations.
C'est n'importe quoi.
10 ans d'amitié comme ça que tu brises.
T'as tout foutu en l'air en quelques secondes. Et puis notre ami Will Cook.
Bonjour. Bonsoir.
Bravo.
Voilà. Non, c'est bien, j'aime bien. Je vous réinviterai rien que pour
le coup. Oui, c'est moi, ils sont rodés, je suis le dernier.
Donc, on parlait DLC juste avant. Je voulais qu'on revienne sur l'histoire de l'e-sport parce que on a. Oui.
Il nous reste combien de temps?
Il nous reste une demi-heure. Même pas, il nous reste 25 minutes.
Non, mais déjà, il y a
on
une chose.
Plein de choses en 25
minutes. Juste une petite chose en introduction dans l'e-sport, c'est qu'on a quand même déjà un petit peu abordé la chose quand on parlait de l'arcade, parce que c'est un peu le même type d'écosystème.
Oui.
Maintenant, je leur laisse la main, je ne connais rien en e-sport.
Non, mais alors, c'est un vaste sujet l'e-sport, parce qu'effectivement, il y a plusieurs problèmes qui se posent. À savoir qu'en e-sport, tout le monde doit jouer sur la même version. Donc, si tu veux avoir une scène compétitive. Après, l'autre problème de l'e-sport, c'est que ça reste quand même un microcosme. On a l'e-sport actuellement qui est en train de grandir, il y a une visibilité grandissante, StarCraft 2, Call of Duty, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, enfin, les jeux de la scène, je ne vais pas vous les redire, vous les connaissez. Et la plupart, effectivement, en fait, le League of Legends, c'est un free-to-play, donc on va même pas s'y intéresser, puisqu'il n'est pas concerné, Dota 2, c'est pareil.
Il n'y a pas de DLC, il n'y a aucun système payant dans...
Si, il y a des costumes, il y a des pages de runes, mais c'est... Je pense que ça ne rentre pas dans notre débat, en fait. C'est des modifications cosmétiques. Bah, c'est du micro-paiement, mais on ne peut pas vraiment parler d'add-on. En fait, il y a des mises à jour, mais comme c'est un free-to-play, elles sont gratuites. Donc des mises à jour d'équilibrage, il y a des nouveaux persos qui sont publiés tous les X temps. Non, mais par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est de se poser la question de FIFA. FIFA qui traditionnellement n'est pas une série connue pour ses DLC en fin de compte. Alors je suis pas un expert de FIFA, malheureusement on a essayé de contacter un professionnel de FIFA, et il n'était pas disponible, en vacances.
On se refera ça.
Voilà, il faudra.
Mais ils ont eu une tentative de DLC sur FIFA. Alors je connais pas très bien le sujet, mais je le dis. Mais ils avaient développé un mode de jeu dans lequel tu suivais une saison d'un club, je crois. Et en fait, quand tu achetais ton jeu,
le Football Ultimate Team.
Voilà. Alors
le Football
Ultimate Team. Tu pouvais suivre un club. Et si tu voulais suivre un autre club, il fallait que tu achètes des licences, en fait.
Alors non, alors on parle pas de la même chose. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui a fait un carton actuellement sur FIFA, le FUT. C'est pas un pantalon, c'est un mode de jeu en fait où on achète des boosters. C'est des boosters de cartes en fait dans lesquels on a des joueurs avec leurs statistiques. Et en gros, en fait, ensuite on a une team sur le terrain composée avec ces joueurs qu'on a achetés dans les boosters. Et ça, ça fait un carton, ça fonctionne très très bien. Mais voilà, traditionnellement, FIFA, c'est.
T'as un ordre de prix ou pas
Non, pas du tout, parce que malheureusement, je comptais sur la présence de Abdoulaye, le prof, pour ceux qui le connaissent, pour nous détailler le système, mais malheureusement, nous n'étant pas disponibles.
On te fait un coucou d'ailleurs, hein. Tu reviens quand tu veux. Hein.
Tu crois qu'il va nous voir
Mais oui, mais forcément.
Donc, par contre, FIFA, effectivement, quand on regarde, on a une version tous les ans. Et là, est-ce que c'est un cadeau aux fans? Est-ce que c'est une version qui est justifiable dans sa technique ou pas?
Alors, dans sa technique, peut-être pas, parce que c'est vrai, la légitimité de FIFA vient de son contenu, du fait que c'est un jeu à licence et que chaque année, il y a le mercato, il y a tout qui est remis en bancal, sachant qu'il y a aussi le mercato de mi-saison où ils sont obligés quand même de refaire un petit brassage quand il y a des transferts. Donc voilà, c'est un jeu qui essaie de coller à la réalité pour donner aux fans, lui donner ce délire d'incarner. D'incarner des équipes de foot, des joueurs de foot, ce genre de choses.
Donc, ça a plus la concurrence qui représente
PES. On parle de FIFA, mais c'est vrai pour tous les jeux de sport.
PES, donc, ça, Madden, voilà. NBA, NBA 2K, la liste elle est longue comme le bras.
Mais voilà. Comme le nombre de sports qu'il y a, fois 2 ou 3.
Voilà. Ken Bogard en parlait tout à l'heure de FIFA, excuse-moi, je te coupe.
Non, mais si c'est juste pour coller à la réalité et juste changer les équipes, si tu touches pas au gameplay, autant faire une mise à jour gratuite ou faire une toute petite mise à jour que de ressortir une nouvelle version.
Le problème, c'est que les joueurs coûtent très cher.
Voilà, c'est ça.
Et là, c'est un autre débat.
Mais il y a pas ça, mais.
Il y a ça, effectivement.
Mine de rien, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à FIFA qui sont avant tout des fans de foot que des fans de jeux vidéo. Et qui sont peut-être pas forcément dans la mentalité dans laquelle tu vas pouvoir refourguer des arguments à des amateurs de jeux vidéo, à des gens qui aiment avant tout le football et qui jouent FIFA pour jouer au football.
Oui, mais en plus on va s'apercevoir que c'est pas aussi facile que ça, puisque donc dans FIFA effectivement on a chaque nouvelle version, on a les transferts de joueurs, on a les nouvelles équipes, voilà, il y a le chamboulement du mercato et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et là bon c'est pas forcément à l'avantage de FIFA, mais le moteur se doit d'évoluer chaque année parce qu'il y a beaucoup de failles dans FIFA. C'est pareil, j'aimerais bien vous expliquer en détail, mais j'ai pas assez taffé le jeu. Mais il y a des failles dans l'IA qui font qu'on va pouvoir faire un goal si on le fait, un but accordé si on va le faire d'une certaine manière.
Il y a certaines versions où il y avait vraiment.
Il y avait des grosses failles. Ouais. Enfin, on n'est pas au niveau de World Cup sur NES où tu te mettais contre les goals, t'appelais la balle, tu faisais retourner, tu mettais 96-0 à l'Algérie pendant le dernier match sur la cartouche NES. Non, mais il y a effectivement des problèmes. Donc là, en fait, on a quand même un gros travail de la part d'Electronic Arts chaque année qui va effectivement affiner le gameplay, parce qu'il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle des joueurs. Il y a la physique de la balle aussi qui suit avec les nouvelles versions. Donc j'en discutais souvent avec des joueurs de FIFA en compétition qui me disaient, par exemple cette année, ça a été une année charnière pour FIFA,
oui.
Parce que la version 14 est sortie sur Xbox One, PS4, mais aussi sur PS3 et Xbox 360. Ce qui leur a posé beaucoup de problèmes, parce que entre la old-gen et la new-gen, l'IA était beaucoup moins bonne sur la old-gen. Donc du coup, ils préféraient tous jouer sur la version Xbox One ou PS4.
Et après, on en arrive aussi à des FIFA de vitesse, c'est-à-dire que ceux qui sortent sur les anciennes consoles, qui sont sur la continuité de ce qu'il y avait avant, et ceux qui vont sortir sur les nouvelles consoles, qui vont être les nouvelles
versions. C'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation.
C'est ce qui arrivait sur PS2, PS3.
Voilà, qui sont des espèces de patchwork, les versions Wii qui sont une version de l'année dernière déguisée. En fait, t'as l'impression que le mec, il a pris le titre du jeu, il a gommé vite fait le 13 et il a griffonné un 4 à la place. Et du coup, en fait, FIFA, c'est une série qui est hyper ambivalente parce qu'il y a énormément de qualités de gameplay chaque année qui sont rajoutées, qui sont affinées. Et à côté, voilà, il y a des espèces de casseroles qui se traînent entre les différentes versions qui ne sont pas forcément les mêmes et qui finissent toujours par avoir des versions qui sont boudées par le public parce qu'elles sont jugées inférieures.
Sur le chat, on parle carrément de win to pay.
De win to pay, pour le foot.
C'est encore autre chose, le win to pay, quand
pour
même.
Pour le foot, c'est du win to pay, oui, pour le coup.
Pour le coup, oui.
Pour le mode. Le mode
plutôt du pay to win.
Enfin oui, voilà, win to pay, c'est pareil, de toute façon.
Non, gagner pour payer, c'est un peu triste quand même.
Mais de toute façon, personne comprend anglais, on s'en fout.
Ouais, moi par exemple, parce que je me suis fait avoir. Mais voilà, effectivement, après, le mode fut, c'est plutôt un mode fun, je pense que c'est pas un mode compétitif en lui-même. Les joueurs de FIFA, en compétition, ils jouent au jeu classique, ils jouent pas au fut en fait, c'est vraiment pour s'amuser.
Mais toi, tu joues avec ou sans fut?
Ah ben moi toujours sans fut en été quand il fait trop chaud, par contre en hiver quand il fait froid je le garde.
Et quand tu streams, tu le gardes ou pas?
Ça dépend comment est cadrée la caméra.
Voilà, c'est tout ce secret de Valentin maintenant.
Alors du coup, bon là on parlait de l'e-sport du côté foot. Je pense que c'est grosso modo la même chose, de toute façon sur toutes les grosses licences, même si on part du côté du basket où les difficultés doivent être sensiblement les mêmes. Je connais pas trop les tarifs d'ailleurs de ce que doit percevoir un joueur de foot ou de basket ou de baseball pour apparaître dans tel ou tel
les
jeu.
Les droits sont négociés. Enfin, pour FIFA, les droits sont négociés auprès de la FIFA.
Oui. Donc, par contre, sur la jaquette, là, tu négocieras avec le joueur que tu mets dessus, bien sûr.
Si tu veux un Messi, effectivement, à mon avis, tu dois bien cracher au bassinet.
Donc mais il faut forcément rentabiliser le jeu derrière, parce qu'un jeu comme ça, c'est pas non plus gratuit à développer.
C'est des marronniers, tu vois, c'est... Voilà, comme disait Walekou, qu'on s'adresse à un public de fans de foot, et tu sais très bien que la nouvelle version, elle va forcément avoir des attraits pour les vieux joueurs, parce que voilà, il y a tous ces affinements au niveau du gameplay, il y a les nouvelles équipes, il y a toujours un petit peu de contenu en plus, ils rajoutent des tournois différents, des petits tournois, j'allais dire locaux, mais des tournois de pays qu'il n'y avait pas forcément avant. Et y a toujours
ils en enlèvent des fois aussi. Ils en enlèvent des fois aussi.
Oui, aussi, des fois ils en enlèvent, c'est vrai. Mais voilà. Et à côté, en e-sports, on a le cas Call of Duty, qui pour moi est. Et en fait, pour moi, c'est un peu. Je vais pas dire le démon, parce que j'aime pas diaboliser. Mais c'est un peu le.
C'est le mal.
C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien parce que. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Call of Duty. Que les choses soient claires, je trouve que c'est un FPS qui est fun, c'est rapide, c'est nerveux, c'est facile à prendre en main et c'est quand même assez dur à masteriser derrière. Mais.
Une très bonne courbe de progression.
À maîtriser en français.
À maîtriser, voilà. Excusez-moi pour cette
question. C'est un peu moi qui t'ai repris en plus, hein, tu vois.
Mais. Vous aviez dit que vous étiez anglais.
Depuis Modern Warfare, le jeu effectivement, donc il s'est développé par deux studios. Donc une année c'est Treyarch, une autre année c'est Infinity Ward. Bon, il y en a un qui est mort entre temps, le studio qui a complètement implosé. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'innovation ces derniers temps. On est dans une logique de DLC ultra consumériste avec des nouveaux packs de maps régulièrement. Le moteur graphique n'a pas bougé. Est-ce que là, on n'en est pas à un stade où, en fait, le copier-coller, il devient tellement évident qu'on voit que sur Ghost, effectivement, les chiffres de vente sont moins bons. Ça reste énorme parce que c'est Call of Duty, donc c'est un multimillion seller, vendeur. Mais je pense qu'on a atteint la limite au niveau de Call of Duty parce que c'est juste toujours pareil maintenant. Même en
après, il y a autre chose malgré tout, mais ça, c'est mécanique. C'est que quelque chose qui a un succès phénoménal, au bout d'un moment, tu sais qu'il va décliner. C'est vachement sûr, c'est difficile de deviner quand, pourquoi et comment, mais il va finir par décliner. Et est-ce qu'on n'est pas sur un déclin naturel plus qu'autre chose, peut-être quoi.
Alors il y a quelqu'un qui pose une question intéressante sur Twitter qui est puisque les DLC sont optionnels, est-ce que si les joueurs arrêtaient d'acheter à tort et à travers, les éditeurs reverraient un peu leur copie à la hausse?
Bien sûr,
c'est complètement évident.
Bien sûr, et puis il faudrait supprimer les japonais aussi.
Mais c'est pas gentil ça.
Mais dis donc.
Il y a des gens qui ont essayé, ça a mal fini. Hein.
Ouais, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Enfin, c'est les Japonais qui ont eu des problèmes surtout.
Laisse tes propos.
Ceux qui ont pris les bombes, c'est eux quand même.
C'est sûr que.
Le point Godwin.
Non, mais ça, ce que je veux dire, c'est que quand même, tout ce qu'on voit de plus détestable dans le DLC, c'est quand même souvent les Japonais qui nous le proposent, quoi.
Non, et puis effectivement,
je généralise pas, mais souvent.
Je trouve que Activision est très fort dans l'exercice.
Ah, oui, oui.
Mais Activision, le truc, c'est voilà, c'est qu'ils sont très forts dans l'exercice et ça fonctionne. Capcom, ils font la même chose et ben ça marche pas.
Mais alors, du coup, j'ai une question par rapport à ça, pour reprendre justement, pour rester sur l'e-sport et là pour le coup sur Capcom et c'est sans troll. Je reviens sur Street Cross Tekken. Où on a un jeu, je vais essayer de faire ça bien sans troll, on a un jeu qui sort donc où il n'y a effectivement pas tous les personnages parce qu'on sait dès le départ que toute une partie du cast va être vendue en DLC. Et là, je prends l'exemple du Stunfest qui s'est tenu il y a 3 ans, je crois maintenant, où ils ont été confrontés au fait de « Ok, on sait que les gens vont jouer à ce jeu ». On sait qu'on est obligé de proposer le jeu et on ne sait pas si on doit interdire ou pas les DLC parce qu'il y a des joueurs qui n'ont joué que certains personnages en DLC et qu'on va peut-être perdre certains joueurs. Et donc là, on se retrouve avec des DLC qui sont presque forcés en e-sport parce que Capcom sait très bien que si tu veux le jeu en entier et donc que le jeu soit compétitif, tu es obligé de tout acheter. Bon, il s'avère que dans l'histoire, ça s'est retourné contre Capcom parce que le jeu a été un flop total, mais ça aurait pu marcher.
Mais c'est le cas sur Call of Duty. C'est complètement le cas sur Call of Duty. Il y a des maps, effectivement, que tu es obligé d'acheter parce que tu vas arriver dans un tournoi. Tu vas brancher ta console et là on te dit bah voilà, tu joues ton set sur telle map. Ah bah je l'ai pas.
Ah bah t'es foutu.
T'es foutu. Alors après, je dis peut-être une énorme bêtise, corrigez-moi si je me trompe sur le chat, sur Twitter, sur les internets en général. Peut-être qu'on joue à la version vanilla du Call of Duty sans les maps DLC ni quoi que ce soit. Mais je pense pas que ce soit le cas. Et en fait, on est dans une politique effectivement où tu es obligé d'avoir tout le contenu du jeu si tu veux pouvoir faire un parcours au niveau tournoi pour le jeu. Mais d'ailleurs, pour Triple Cross Tekken...
Après, ça dépend aussi. Parce que si tu commences à parler de l'e-sport comme quelque chose de professionnel, entre guillemets, au bout d'un moment, quand tu vas être professionnel, tu vas devoir investir pour se payer et
après, derrière. Après, c'est l'idée qu'ils ont. C'est complètement l'idée voilà. qu'ils ont. C'est
Est-ce que tu es dans un univers fermé ou ouvert? C'est ça la vraie question.
Moi, à mon avis, à partir du moment où tu te professionnalises sur ce jeu, que tu as une team et que vous êtes complètement investi avec des sponsors et tout, de toute façon, t'en es à un tel point que les 15 euros de map tous les 3 mois, c'est une paille. C'est ridicule. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas du tout dérangeant. Mais pour le joueur lambda, effectivement, ça représente une charge supplémentaire et ça le coupe effectivement de parties supplémentaires. Parce que, évidemment, quand les maps vont sortir, toi tu les achètes pas, mais il va y avoir une espèce d'engouement autour de ces maps. Il y a plein de gens qui vont les acheter et du coup, ben, toi tu vas te retrouver sur des maps du pack d'avant que tu avais acheté toi, mais tout le monde a déserté et est passé sur les nouvelles pour les découvrir, pour faire du versus dessus.
Après, il y a juste un petit truc auquel je viens de penser du coup en discutant là, c'est que vrai qu'il y a quelque chose. Quand même qui est important par rapport au DLC, c'est que contrairement au jeu physique, le DLC ça reste un domaine dans lequel l'éditeur a un contrôle complet sur son prix.
Oui.
Il maîtrise complètement le cycle de vie, le prix de son produit, et donc il a une maîtrise de son chiffre d'affaires qui est beaucoup plus forte par rapport à un outil physique, qui peut se retrouver bradé, soldé, liquidé, en fonction d'endroit où l'achète des joueurs, ça ne sera pas les mêmes prix. Malgré tout, la volonté du DLC, c'est quand même de consolider des chiffres d'affaires. J'en avais parlé dans un autre démarche, il y a aussi le problème qu'on est dans une industrie de jeux vidéo qui est une industrie de projet. Un projet, c'est un studio qui va travailler un an, deux ans à développer un jeu, qui va sortir, qui va essayer de se rentabiliser dessus, de gagner de l'argent, de développer un jeu derrière. Et derrière, tu vas avoir des financiers, des actionnaires, des propriétaires, des distributeurs qui vont vouloir, eux, avoir des rentrées d'argent plus régulières parce qu'ils ont des contrats à rendre. Les bilans des entreprises aujourd'hui, c'est du trimestriel. C'est pas tous les ans ou tous les deux ans où tu dis, j'ai sorti un jeu, je fais du chiffre. Voilà mon chiffre d'affaires. Et donc, ils ont besoin de lisser leur courbe de cash, de chiffre d'affaires, de résultats. Et le DLC rentre dans cette stratégie-là économique et financière de permettre aux entreprises de se justifier et de se vendre auprès, aujourd'hui, je vais appeler ça des marchés de manière un peu
vulgaire. Voilà, c'est-à-dire que
il y a un besoin à ce niveau-là qui peut être comblé que par le DLC.
Le DLC, il sera sur mes serveurs, il sera vendu 15 euros tout le temps. Si vous n'êtes pas content, niquez-vous. Voilà, c'est grosso modo le message.
Je vous en sors un tous les 3 mois, donc tous les 3 mois, je peux tipler à peu près sur ça le chiffre d'affaires que je vais faire rentrer, que je vais vendre à mes actionnaires.
Et pour continuer sur l'e-sport, on peut également prendre l'exemple de StarCraft 2.
Oui.
StarCraft 2, donc il y a 3 épisodes qui sont prévus. Et là, on n'est même plus en fait. Alors, on avait à l'époque StarCraft, il y avait Brood War. Warcraft 3, on avait The Frozen Throne. Le trône gelé.
Non, c'est l'appli comme ça en français, je crois. Ils ont gardé le nom anglais.
Et du coup, là, pour StarCraft 2, ils ont carrément changé. C'est-à-dire que c'est deux jeux différents. Enfin, physiquement, vous n'avez pas besoin d'avoir StarCraft 2 Wings of Liberty quand vous achetez Heart of the Swarm. Et ce n'est pas le même jeu. Enfin, c'est-à-dire que vous avez toujours les Terran, les Protoss et les Zergs.
Faut aussi que tu bosses ton accent.
Oui, effectivement. Mais c'est fait exprès. I speak English like that and I like that.
Comme ça, tout le monde comprend.
Voilà. Donc du coup, là, où quand on est sur la scène e-sport, il y a eu l'e-sport sur Heart of the Swarm. Et avant ça, il y avait l'e-sport sur Wings of Liberty. Et il y aura le dernier pan sur Legacy of the Void. Mais là, c'est carrément des nouveaux jeux qu'il faut racheter entièrement.
J'ai une question un peu bête, mais sur StarCraft, ils n'ont pas fait en sorte que le mode en ligne soit le même que tu aies Wings of Liberty et que tu aies acheté Brood War ou pas?
Tu parles de StarCraft 1, là?
Non, de StarCraft 2. Pardon, pas Brood War, mais Heart of the Swarm.
Ah non, en jeu multijoueur sur Wings of Liberty, tu joues avec des gens qui ont Wings of Liberty.
Uniquement?
Ouais.
Ok.
Complètement.
Alors j'avais eu un doute là-dessus.
Là, du coup, on se retrouve avec tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tu as la version de base, tu as la version collector, et c'est un nouveau jeu en fait. C'est complètement un nouveau jeu.
Ouais, mais d'un autre côté, c'est un petit peu honnête parce que le gars qui a envie de jouer à la dernière version, parce qu'avant tu voulais jouer à Brood War, il fallait que tu achètes StarCraft.
Oui.
Maintenant, tu as envie de jouer à la dernière version de StarCraft, bah, t'achètes la dernière version. Si tu t'intéresses pas à l'histoire, t'as pas besoin de t'embêter avec la version d'avant.
Alors, t'achètes Brodoir qui coûtait pas le prix du jeu neuf, si je dis pas de bêtises, il me semble bien d'ailleurs qu'il était moins cher.
Oui, il était beaucoup moins cher, mais malgré tout, t'étais obligé
d'acheter le jeu neuf. T'avais quand même une grosse campagne bien fat, t'avais toutes les nouvelles unités. Là, bon, bah, t'as acheté StarCraft 2.
Non, je suis d'accord, en termes de contenu, on a quand même l'impression de se faire un peu avoir.
Voilà, et là, tu rachètes, en fait, il y a une nouvelle campagne. Bon, il se trouve que là, c'est Blizzard, donc ils ont plutôt bien assuré le contenu sur Heart of the Swarm. Mais tu rachètes quand même un jeu neuf entier, tu rachètes pas un add-on qui va coûter 15, 20, 30 euros. Mm. C'est-à-dire que t'es reparti pour édition collector à 80 si t'es un peu fan.
Bah en neuf, il était sorti à 40, donc c'est
oui, pas sorti plus, à 40, c'est vrai.
C'est pas en cure de prix, aujourd'hui il a 20 euros, donc c'est une baisse de prix définitive. Donc ils sont restés quand même sur une politique tarifaire qui était celle à peu près des add-ons qu'on avait déjà à l'époque. En proportion.
Je serais très curieux si quelqu'un pouvait nous retrouver le prix de Brodoir à l'époque ou même de Lord of Destruction sur Diablo 2. Ça remonte, hein.
Oui, c'était en francs à l'époque, donc ça remonte, oui.
Oui, faites bien la conversion parce que du coup, si vous mettez le prix en francs.
Voilà, un niveau de vie constant, inflation.
En fait, il a bien baissé, hein. Oui, oui.
Et du coup, si on continue sur l'e-sport, c'est qu'on reste sur des jeux, ben, voilà, les jeux free-to-play, où là, il n'y a pas de problème, l'accessibilité est maximale. Et
ça dépend des jeux, parce que c'est vrai que dans le free-to-play, on tombe vite dans le pay-to-win, quoi.
Ben, c'était le début, enfin, c'est un autre débat, je pense que ce serait un débat très intéressant.
C'est un autre débat,
le free-to-play. D'ailleurs, il faudrait même pas, à mon avis, il faudrait plus d'un démarche pour le traiter. Mais si on prend l'exemple de Dota 2...
Prenons date.
C'est voilà, bon, il a rajouté un sujet de sujet.
Si on prend l'exemple de Dota 2, où tu télécharges le jeu, il est gratuit. Tu veux y jouer compétitivement, pas de problème. Tu as tous les persos, jouables dès le début. T'as pas de mécanique de level, et tout ce que tu peux acheter. Alors, le seul truc que tu peux acheter, c'est du cosmétique. C'est des costumes, des courriers, des petites décorations, des nouvelles maps, des nouvelles skins.
Et si je dis pas vite, ça peut être développé par les joueurs qui après peuvent toucher une commission.
Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que Counter-Strike et Dota 2, qui sont tous les deux développés par Valve, mettent énormément l'accent sur le contenu développé par les joueurs, enfin, c'est pas forcément des joueurs, hein.
Enfin, par la communauté.
Par la communauté. Et
il y en a qui jouent très peu et pourtant qui passent des heures à créer de la
et qui gagnent beaucoup d'argent.
Oui, tout à fait,
beaucoup d'argent. On parle de l'ordre de 15, un item fait par quelqu'un de la communauté, mis en avant par Valve sur son shop sur Dota 2, c'est 15 000 dollars en deux mois. Dans la poche du développeur, je vous laisse imaginer la part de Valve dans l'histoire. Ça, tous les jours, vendu absolument tous les jours sur deux jeux différents. T'as des couteaux sur Counter-Strike qui partent à 300 euros. Maintenant, parce qu'ils sont plus édités, bon, ils ont été vendus à la base. Donc les sommes d'argent qui circulent sont monstrueuses. Mais bon, Counter-Strike n'est pas encore en free-to-play, il faut quand même payer pour le jeu. Mais sur la base d'un jeu free-to-play comme Dota 2, le business model pour eux est hyper rentable et il n'y a absolument pas de pay-to-win.
Et c'est très intelligent, ils ne sont pas les seuls à le faire. Là, y a des jeux.
Après, si tu prends un autre jeu, jeu de Blizzard qui est le jeu de cartes Hearthstone,
ouais.
Là, effectivement, il est complètement gratuit, mais il y a quand même du pay-to-win, quoi. Il faut que si tu veux aller vite pour avoir plein de cartes et pour essayer de construire des decks, il faut que tu allonges de l'argent, que tu achètes des decks. Enfin, c'est un peu le travers de tous les jeux de cartes à collectionner malgré tout. Hein.
Ben voilà, de toute façon, là, dans la philosophie même de Hearthstone,
au-delà même du jeu de cartes, hein. C'est tout ce qui t'impose un gameplay avec de la collection. De toute façon, le pay-to-win, il est inévitable.
C'est plus de l'accélération, puisque rien ne t'empêche de jouer avec ton deck de base et de tout acheter avec la monnaie du jeu.
Effectivement, je l'avais dit dans une autre émission, c'est que c'est une question, c'est t'as deux choix, soit t'investis du temps, soit t'investis de l'argent. La question, c'est de savoir quel prix tu mets sur ton temps.
C'est un peu le problème, c'est que c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour être au niveau de gens qui vont payer, tu te retrouves dans des situations des fois qui sont un petit peu laborieuses.
Ouais, malgré tout, tu peux dire que c'est un choix, quoi.
Oui, mais c'est un choix. C'est un choix.
Tu peux choisir d'en chier ou de sortir ta carte bleue.
Exactement.
Mais cela dit, Valve n'a pas toujours été irréprochable sur le sujet, parce que souvenez-vous, un certain FPS avec des zombies du nom de Left 4 Dead. Vous vous rappelez de Left 4 Dead 1 quand il est sorti?
Quand t'as vendu, il y aura plein
de contenu supplémentaire dedans, mes petits miens. Et puis derrière, un an plus tard, bim, Left 4 Dead 2, allez, repasse à la caisse.
Ouais, mais ça valait le coup.
Elle était très belle.
Alors, je pense que ça valait le coup, mais là, on peut carrément se poser la question qui est le sujet de ce soir. Est-ce que ils n'auraient pas pu faire une mise à jour plutôt qu'un nouveau jeu?
Si, bien sûr. Mais ils l'ont plus ou moins fait de toute façon, parce qu'ils ont incorporé toutes les cartes du premier dans le 2 après.
Enfin, ben voilà, à quel du point, coup, à la fin, ils ont
du
fait.
Du coup, le 1, ça ne servait plus à rien.
Voilà, le 1 ne sert plus à rien du tout.
C'est pour ça qu'ils l'ont fait.
Si, parce que tu peux jouer avec Zoé.
Oui. C'est vrai que Left 4 Dead 2 à l'époque, c'était un cas effectivement où tout le monde a hurlé.
Merci.
C'est l'heure.
C'est l'heure.
On est sur la fin. Mais vas-y, justement, mais termine.
Effectivement, Left 4 Dead 2, on l'a oublié, mais enfin, moi je l'ai pas oublié parce que.
Parce que t'as payé pour
un
pot.
J'ai acheté Left 4 Dead dans un magasin d'une célèbre chaîne de disquaires français qui maintenant n'est plus. Plein pot. Oui.
T'as pas ça, disquaires, ok.
Bah, Virgin.
Ah, Virgin.
Oui, mais de toute façon, on s'en fout, on est sur internet, on peut citer des marques.
Bah, ils sont morts.
En plus, ils sont morts.
En plus. Et donc, du coup, tu vois, un an après, tu as bien rouillé ton jeu, et puis là, on te dit, ben, il va falloir racheter le 2. Mais c'est quoi les nouveautés? Oh, bon, on a rajouté
des poils à frire.
Et des poils à frire. Ah, ok, bon, voilà. Et là, franchement, pour le coup, elle a eu du mal à passer, celle-là.
Elle était bonne.
La poêle à frire.
Mais elle est passée.
Oui, elle est passée, la poêle à frire. Elle est passée, on a passé de très bonnes heures sur Left 4 Dead 2. Mais voilà, les mecs qui te disent, ouais, mais vous inquiétez pas, dans le 2, les coups, en fait, pour repousser les zombies, dans le 1, tu pouvais les repousser à l'infini. On a ajusté 2-3 trucs. Mais voilà, c'était le même moteur de jeu, c'était le même truc. T'as, je suis sûr, les mecs, ils avaient juste un fichier de variable à éditer, et t'avais Left 4 Dead 2.
Oh, ils ont fait des skins aussi.
Oui, skins, voilà,
on en revient sur l'histoire des skins et justement ce principe où on dit voilà, on va faire participer le joueur ou en tout cas le modeur ou qu'importe. Quand tu vois la qualité du travail de ces artistes-là, il y a beaucoup de développeurs qui feraient bien de s'en inspirer. Et là, c'est pas pour critiquer les DLC. On parlait tout à l'heure de Capcom où ils te vendent des costumes qui sont d'un goût.
Les costumes de Street Fighter, il y a de quoi en faire un démage complet. Hein.
Ouais,
surtout que c'est l'univers où justement tu peux piocher quoi dedans.
Où il y a
pléthore de choix. Voilà, et ils vont te foutre des trucs sortis de part qui ressemble à rien.
Quand tu vois la qualité des costumes que tu trouves sur PC qui sont faits par des fans, mais je comprends pas que Capcom n'ait pas eu l'idée d'aller trouver ces gens-là et leur dire
qu'est-ce
ok.
Est-ce que tu vas acheter un mec en combinaison de plongée à côté dégueulasse là? Effectivement, c'est. Il y a plus de respect, je le disais déjà tout à l'heure.
Il y a plus de respect.
Il y a plus de respect.
Et on va terminer là-dessus, malheureusement, parce que comme il y a plus de respect, est-ce qu'il y a un jeu comme ça, vous, qui vous a marqué un jeu un petit peu peut-être de la honte où on se dit ok, je paye quand même mon DLC parce que je kiffe ce jeu?
Ah, un jour où t'as eu honte de payer le DLC?
Ouais, mais tu l'as quand même fait, tu t'es dit je veux le jeu en entier.
Alors moi j'ai pas honte de l'avoir fait, mais j'avais pris les DLC de Valkyrie Chronicle.
Ouais, pour le coup c'était très bon, c'est pas un jeu de honte.
Mais non, mais c'est le seul souvenir que j'ai d'avoir acheté un DLC avec du scénario supplémentaire, des personnages supplémentaires et des trucs comme ça, mais... Parce qu'ils étaient probablement sur le disque à débloquer, mais voilà, c'est... Ça valait le coup quand même.
Moi j'ai payé les DLC de Resident Evil 6.
Moi aussi. Ouais. Moi le problème c'est que je suis un gros collectionneur et du coup à chaque fois je veux tout le temps le jeu en entier. Donc évidemment
j'ai
donc,
un peu le problème.
Les Sims, j'ai honte d'avoir acheté des trucs sur.
Oh bah, tu peux, hein, vu le prix.
Les add-ons ça va, je gère, mais j'ai acheté des trucs en plus sur la boutique en ligne, donc ça c'est encore pire. Pareil, le Skylanders par exemple, voilà, j'achète toutes les figurines.
Alors là c'est des DLC physiques, c'est encore
en plus,
pire,
ouais. c'est encore pire.
C'est la
boîte. Mais non, c'est mieux, au moins t'as l'impression d'acheter quelque chose.
C'est la boîte de Pandore, mais c'est ça, c'est le génie.
Ah, mais ça coûte...
C'est le génie de ces séries. Putain, mais on a complètement oublié d'en parler pendant l'émission. Skylanders, Disney Infinity, les Amiibo, c'est le roi, je pense que c'est le futur.
Ils te ressortent la même figurine qui a un petit peu plus de pouvoir, mais c'est toujours la même figurine, quoi, c'est le même.
Et tu la payes.
Ah, c'est la même figurine, c'est juste la pose dedans et la tête qui change.
Ah bah, la pose change,
oui,
mais
la pose
après,
change, pas forcément les mêmes couleurs,
elle a un nouveau pouvoir, voilà.
Oh la vache.
Et j'en ai 150 chez moi, c'est terrible. C'est un bon jeu, franchement, je m'éclate bien et tout.
Okay. La différence entre bon jeu et plaisir, il faudra qu'on fasse aussi une émission aussi là-dessus.
C'est un bon jeu, hein. je mets 5 sur 10 sur Gamekult, mais c'est un jeu que j'adore, tu vois. Donc,
j'ai acheté les costumes pour avoir Ryu en version Street Fighter dans Marvel vs Capcom 3 avec les cheveux roux. Je l'ai acheté.
J'aime acheter les costumes.
On est frères de carottage chez Capcom tous les deux.
Attends, j'ai pris les skins de Final
Fantasy. Non, je veux pas te le donner, mais prends-le.
Oui, c'est ça, je veux pas te le donner, mais prends-le quand même.
J'ai acheté les skins de Lightning Returns quand même, je tiens
pas
aussi
mal
à le dire.
Toutes
les skins.
Très belle performance. 9 sur 10.
Donc là, on vient d'exprimer aux éditeurs que arrêtez de nous prendre pour des cons,
mais on
l'achète quand même.
c'est la morale de ce soir.
Bah, hein, non. Si le chômage continue d'exploser, on va peut-être arrêter ces conneries.
C'est bien possible, mais on fera une autre
émission. Non, on utilisera nos indemnités chômage pour acheter des DLC.
Bon, bah, écoutez, merci à tous d'être restés si tard, jusqu'à 23h30. C'est toujours un petit peu tardif. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce démage.
Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Et puis,
t'as un beau chapeau.
Moi, j'essaye. Ouais,
je crois que tu le changes de temps en temps.
Oui, mais j'en ai qu'un, en fait. Ah, c'est le problème des gens au chômage.
L'été est bientôt fini, on ne le verra plus.
Je mettrai un bonnet ou une casquette.
Un Borsalino ou.
Exactement.
Un bonnet de bain.
Je vous dis à très bientôt, dans 15 jours, pour un nouveau démage. Et puis, messieurs, à très très vite pour de nouvelles aventures, chacun de votre côté. Et puis, j'espère tous ensemble.
Mais ouais,
des bisous.
Salut, bonne soirée.
Salut. Au revoir.